Dans le tempo, épisode 46, on y va.
Thomas présente. Dans le tempo.
Bienvenue dans DLT, le podcast des passionnés de musique. Pourquoi tu rigoles déjà?
Parce que je sais déjà que tu vas me trapper, mais
et bonsoir. Écoute, c'est un plaisir de vous retrouver tous. Je te demande pas, Daz, comment ça va?
Et c'est un tort?
Non, pas de small talk, Daz, parce
d'accord.
Que l'heure est grave.
Ok.
François, arrête la musique. François, il faut qu'on passe aux choses sérieuses. Daz, il va falloir que tu répondes de tes actes à présent.
Oui.
Avec un petit fond musical. Est-ce que ça te parle?
Eh oui. Eh bien, figurez-vous que oui.
Daz, il faut t'expliquer. Qu'est-ce que c'est que ce générique?
C'est le générique des amours, une émission de France 2. Voilà, l'invité rigole. Oui, j'ai participé. Alors, c'était marrant, hein.
Explique-toi, tu as participé aux Amours,
ouais.
Tu es en train de nous dire ça. Tu as rencontré Tex, Jean-Luc Reichmann ou Tex?
Non, Tex, c'était déjà la Tex era.
Okay. Je me suis dit peut-être que depuis, il y avait Jean-Luc Reichmann, c'est l'année de la transition, je crois.
Ouais.
Je me suis dit, il a fait sa dernière émission avec Daz, est dégoûté, il a laissé Tex.
C'était
venir.
2001 ou 2002.
Okay.
Effectivement, c'était une participation un peu contrainte.
Ouais.
Mais moi, j'étais parti du principe, donc c'était évidemment avec ma compagne de l'époque, avec qui je suis resté un certain temps. Ouais. Salut à toi, qui est également la mère de ma fille, donc re-salut à toi.
Non mais t'as fait les amours, cherche pas à parler de ta
oui,
fille.
Oui, j'ai fait,
tout,
non,
fait
j'ai
les
fait
amours,
les
amours
non, j'ai fait, mais non, mais pour dire que tu vois, j'ai fait les amours, mais en même temps, je suis resté 20 ans avec la personne, donc quelque part, c'était un peu légit, tu vois.
Est-ce que tu penses que l'émission a soudé votre couple à l'époque?
Je pense que oui, devant l'adversité. Non, en vrai, franchement, elle m'avait dit qu'elle m'inscrirait, j'ai dit non, mais je m'en fous de cette émission. Elle m'a dit non, mais si, ça va être marrant et tout, tu vois, et j'ai dit, mais y'a. Aucune chance qu'on soit sélectionné parce qu'on vivait même pas ensemble. Pour moi, c'était une émission de gens qui vivent ensemble. Ouais. Tu vois, manque de bol, ils ont fait une spéciale les gens qui ne vivent pas ensemble. Du coup, on a été présélectionnés.
Sur la défensive un peu là. Genre,
non, pas du tout.
En fait, c'est pas moi qui ai mis mon nom.
Alors ça, par contre, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Mais du coup, on est allé au casting Star République à l'époque. Pareil, il y a 142 couples. Je me dis, il y a aucune chance qu'on soit retenu. Paf, on est retenu. Et on s'est retrouvé effectivement sur le plateau avec Tex, le public. Mais et c'était en vrai, c'était une super expérience audiovisuelle.
Est-ce que ta street cred en a pris un coup?
Mais à zéro street cred, j'étais.
Est-ce que t'es encore habilité à parler de musique dans ce podcast?
Non, moi j'étais sur le plateau des amours en jean Rockaware et en t-shirt Comate, ok. Et sans gaffeur,
ok.
Parce que comme personne connaissait la marque, donc Comate c'était la marque de Joey Starr. À l'époque où ils sortaient toutes ces Royal Wear, Comate, Homecore, tous ces trucs là, et moi j'avais un t-shirt Comate et la prod réellement m'a dit qu'est-ce que c'est que ça. J'ai dit moi c'est rien, tu vois. Ils m'ont dit mais c'est une marque. Je dis non. Du coup tu me vois à l'image avec un t-shirt
Comate. Tu as mis le hip-hop aux amours,
voilà, sans scotch, sans rien, tu vois.
Est-ce que tu mettras,
c'est comme ça qu'on représente
sur ta tombe, à représenter le hip-hop aux amours?
Mais j'aurais dû à représenter le hip-hop tout court. Amour ou pas amour, et vraiment pour le coup c'était une très belle expérience.
Écoute,
et si c'était à refaire,
tu le referais?
Alors, je le referais...
Différemment?
Non, en prenant en compte le fait, parce que c'est un truc aussi,
ouais.
L'émission passait à midi. Okay.
Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Moi, à l'époque, j'avais 20 piges, 21 piges, j'étais en mode, à midi, de toute façon, personne regarde. Ce que j'avais oublié.
Ouais.
Ça repasse à 3h du matin. Et là, tous les fumeurs de bédo qui sont complètement ravagés, en train de comater chez eux, à 3-4h du matin, là, ils m'ont vu. Donc après, on m'a appelé Wesh les amours dans ma ville pendant quelques temps. Ouais.
Écoute, dernier hommage.
Faudra qu'on parle de la qualité de ce générique.
Plein de petits bruits et tout.
Moi, je trouve que ça parle.
C'est du sound design.
Ouais. On dirait des paix en plus.
Oui.
On dirait des paix.
C'est vrai, ouais. C'est vrai. Mais les amours...
Je sais, ça t'a surpris parce que non. Évidemment Salman n'est pas habitué des réseaux sociaux.
Arrête-toi tout de suite cette introduction beaucoup trop longue.
Non, mais juste pour dire que moi, oui. Évidemment, les gens me reparlent de ça à peu près 8000 fois par an.
Oui.
Je suis sur Twitter depuis 2008, donc tu te doutes que voilà. Et Salman ne l'a appris que la semaine dernière.
C'est
et
vrai.
Ça l'a choqué.
Oui, j'ai été choqué. Qu'est-ce que t'en penses, Roda?
Moi, je pense que c'est très bien. C'est une très belle expérience.
Merci.
Hein?
Tu serais toi-même allé aux amours?
Pardon.
Tu serais allé toi-même aux amours?
Non,
ouais. Excuse-nous pour cette introduction trop longue, mais il fallait qu'on règle cette
non,
affaire.
Non, c'était super,
comprends.
C'était super. J'aime bien en savoir plus sur les personnes
avec
qui
je discute. Là, il est parti diguer loin, mais bon.
Mais il fallait que je sache si je peux encore compter sur lui. Si
mais bien
assumé.
Sûr,
non,
attends,
c'est
mais
c'est une très belle
c'était
anecdote.
Antérieur à notre rencontre. Pourquoi ça changerait quelque chose?
Bah, je sais pas. Non, mais t'as représenté le hip-hop aux amours.
Bah, bien sûr,
ouais,
bien sûr.
J'accepte, c'est bon. Il faut qu'on te présente.
Mais oui, quand même.
C'est notre invité, parce que tu vois, là, on a fait notre petit show tous les deux.
Oui, c'est vrai.
Mais présentons Roda.
On a oublié l'essentiel, quand même, de cette émission.
Absolument. Merci d'être avec nous, Roda.
Merci pour l'invitation.
Tu viens de sortir chez nos amis d'Audimat Édition, un bouquin passionnant dédié au R&B français.
Donc, on reste dans le thème des amours.
C'est vrai, ah, d'une certaine manière.
En fait, on est complètement.
Mais c'est pour ça que je me suis autorisé cette introduction, tu vois. Ce bouquin, il s'appelle Sensible, avec un S, une histoire du R&B français. Et on voulait parler depuis longtemps dans cette émission de R&B, et quand j'ai appris que ce livre allait sortir, bah, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite, et on est très très heureux de te recevoir. Roda Chococam, je te présente rapidement quand même. Donc tu es directrice artistique de formation, tu as travaillé dans la com, la pub, l'architecture. Aujourd'hui, tu es autrice, critique, photographe indépendante aussi. Tu as fondé le projet Atouba, un blog de recherche visuelle. T'as un média aussi qui est consacré aux cultures et aux femmes noires. Membre du collectif Piment également. T'as co-animé une émission sur Rins France, sur Radio Nova, justement avec le collectif Piment. Et puis, il y a ce bouquin. Alors, t'as aussi co-écrit d'ailleurs le Dérangeur, petit lexique en voie de décolonisation. Mais il y a ce bouquin Sensible, ton premier essai, qui est sorti il y a quoi, quelques semaines maintenant?
Oui, il y a 3 semaines. Oui.
Bonne réception?
Oui, pour le moment, vraiment que des très bons retours. Ouais.
Et bah, tu peux en ajouter un parce que j'ai trouvé que c'était un essai de grande qualité. Bon, j'ai la version PDF, donc je t'avoue que j'ai pas lu chaque page intégralement parce que ça fait 300 pages, mine de rien. C'est extrêmement riche, extrêmement documenté.
Ça aurait pu être plus long en plus.
Ça aurait pu être plus long. À la base, tu voulais faire combien?
Non, mais je pense que j'aurais pu écrire 400 pages sur le sujet, je pense. Ouais.
C'est
sur le R&B français.
Oui.
Mais oui. Tu vois, Daz, j'aime bien parce que Roda, c'est l'esprit DLT.
Ouais.
C'est l'esprit DLT parce que une musique, une scène dont on ne parle pas tant que ça, dont on se dit justement avec, tu vois, un regard extérieur, c'est pas si riche, c'était un phénomène populaire pas si intéressant. Et ben en fait, si. Il y a plein de choses à dire, plein d'analyses à apporter. Et c'est d'autant plus pertinent que ce que j'ai apprécié dans ton livre, Roda, c'est qu'on mélange une expérience personnelle. Tu parles un peu de toi aussi, ouais. Dès l'introduction, tu dis qui tu es, ton rapport au R&B, comment t'as découvert ça, etc. Donc des regards subjectifs, avec ton prisme aussi, sur des sujets qui te tiennent à cœur, la place des femmes noires en particulier. Et c'est une résonance assez intéressante avec le R&B. Mmh. Et en même temps, il y a une vraie ambition de raconter une histoire. Une histoire vraiment... du R&B tout simplement contemporain en France, de répertorier les acteurs, les apports, il y a une belle discographie à la fin, tu dresses des portraits même, tu t'arrêtes sur des acteurs importants, elle en parle longuement, sur un label aussi important par exemple, bref, travail immense, c'est érudit, c'est très intéressant, et tu vois, ça c'est DLT, et je suis bien content qu'on reçoive Roda.
Ben moi aussi du coup.
Comment ça t'est venu cette envie d'écrire sur le R&B français, le R&B contemporain, on va préciser d'ailleurs les termes, hein, mais... Mm-hmm.
Je dirais que c'est d'abord un projet de passionné, je pense. Ouais. J'ai toujours été passionnée par le R&B français, par le R&B en général, ouais. Et spécifiquement par le R&B français aussi. Quand j'ai commencé à écrire, je voulais écrire sur le R&B. C'était une époque justement où je lisais beaucoup de presse traditionnelle, on va dire, en France, ouais. Au milieu des années 2010. Et je trouvais que le sujet était pas forcément très bien traité. Que ce soit même, à l'époque, c'était principalement le R&B américain. Parce ouais. que je pense qu'il n'y avait même pas encore la scène indépendante R&B d'aujourd'hui. Et donc, à cette époque-là, je me suis dit, c'est quand même très bizarre, on parle très mal de R&B en France. Donc, j'ai commencé à écrire pour écrire sur le R&B spécifiquement. Ouais. Parce que je voulais un peu commencer un peu cette correction moi-même de ce que je pouvais lire. Et donc progressivement, donc forcément écrire et la rencontre avec Audimat aussi, je pense, ouais. Tout simplement, avec la maison d'édition, pour qui j'ai fait, on a fait plusieurs choses ensemble en 2021, dont une sorte de long podcast, écoute commentée pendant un festival, donc les Siestes électroniques en 2021, donc c'était une sorte de 1h30 où je commentais des titres. De R&B français en les liant à des scènes spécifiques ou alors à des courants dans le R&B français spécifiquement. Et après ce podcast, après cette expérience avec Étienne Menu, donc de la revue Audimat, ils m'ont proposé d'écrire le livre et je me suis dit que c'était effectivement quelque chose qui était essentiel pour une musique qui est née au début des années 90, en tout cas en France, et qui n'avait pas encore à ce moment-là de livre.
c'est le premier, livre français qui parle vraiment de la scène R&B
contemporain. Oui, c'est le premier livre sur R&B français.
C'est fou, hein.
Ouais, c'est vrai, alors que... ouais, c'est
comme... Il y a eu des livres sur le R&B, en français, sur le R&B, le rhythm and blues américain, il y en a beaucoup, mais sur le R&B français, il n'y en a aucun.
Ce que je vous propose, c'est justement parce que le R&B, t'as le rhythm and blues, effectivement, disons des années 20 aux années 40, enfin non, pardon, à partir des années 40 plutôt, d'ailleurs le terme arrive en 49 exactement, et...
Un peu avant.
Un peu avant même, et ben on va en discuter, tu vas tout nous raconter, c'est toi qui sais de toute façon, mais... c'est pas exactement la même chose que ce qu'on appelle justement le R&B contemporain. Parlons de ça, du rhythm and blues au R&B contemporain. Est-ce que tu peux nous expliquer les origines américaines? Est-ce que les deux scènes sont liées? C'est les mêmes esthétiques? C'est les mêmes termes? Pourquoi pas tout à fait?
Alors, je pense que c'est une histoire qui est assez vaste, qui est riche, qui est dense, qui est longue. Et on a tendance à la commencer en 1940, mais je pense qu'elle commence, enfin, dans les années 40 plutôt, mais je pense qu'elle commence quand même, on va dire, quelques décennies avant et qu'elle commence réellement avec la migration des Noirs américains du Sud vers le Nord, vers les villes industrielles du Nord. Et donc de cette arrivée-là dans les villes comme New York, Chicago, LA, Détroit, Philadelphie, etc. Et une sorte de reconstitution de leur monde, on va dire, monde culturel. Et donc forcément, quand ils reconstituent ce monde culturel, ils viennent avec la musique. Ils viennent avec le blues, ils viennent avec le gospel, ils viennent avec le swing, etc. Et à ce moment-là, forcément, dans ce nouveau milieu urbain, il y a de nouvelles musiques qui se créent, dont le blues urbain, par exemple. Qui ensuite morphe, on va dire, progressivement et devient, on va dire, le rhythm and blues, en tout cas les premières versions du rhythm and blues qui ont sûrement été jouées dans les années 20-30 à peu près, avant d'être populaires donc, dans les années 40. Et donc on a tendance à dire que le rhythm and blues se crée dans les années 40 aussi parce que c'est le terme qui est adopté par Billboard, mais c'est un terme qui existe déjà dans la communauté nord-américaine.
Il me semble, et d'ailleurs tu en parles un peu dans le bouquin, c'est que la communauté afro-américaine, il commence à y avoir beaucoup d'enregistrements, etc., disons des années 20 aux années 40 à peu près, c'est peut-être même un peu avant, mais ça devient vraiment une véritable industrie, d'abord à destination de la communauté afro-américaine, mais assez vite aussi, en fait, des blancs s'emparent aussi de cette musique. Et dans un premier temps, c'est ce qu'on appelle la musique de race, la race music, qui est un terme terrible aujourd'hui. Est-ce que, justement, c'est pour qualifier toute cette amalgame de musique afro-américaine, avec en fait des cultures différentes, mais mine de rien, pour qualifier un peu l'ensemble de la production afro-américaine, on commence à parler de R&B, de rhythm and blues, c'est ça
Oui, c'est ça. Parce qu'en soi, je pense que c'est surtout tout le... Enfin, je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est la question de Billboard, c'est quand il faut catégoriser les musiques, il faut trouver des termes. Ouais. Donc le terme, à ce moment-là, dans les années 30, c'était plutôt « race music », c'était pour dire musique de race, très bizarre, musique de noir en fait.
C'est ça.
Et je pense que progressivement le terme est devenu, enfin en tout cas l'expression n'était plus correcte. Et donc ils se sont servis donc du rhythm and blues qui commençait à ce moment-là à être très populaire pour décrire toutes les autres musiques noires américaines. Donc c'était à la fois donc du rhythm and blues forcément, parfois du jazz, en tout cas plein de musiques qui étaient pratiquées à l'époque. Donc c'était juste race music qui est devenu rhythm and blues, le terme beaucoup plus correct et aussi utilisé à ce moment-là par les labels indépendants qui produisaient des artistes de rhythm and blues et aussi forcément donc toute la période aussi, je pense que ce qui est assez important pour la popularisation du rhythm and blues, c'est aussi les années 40 à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est donc la population américaine, ils ont besoin d'une musique d'évasion. Et le rhythm blues, c'est vrai qu'on a tendance aujourd'hui, quand on pense au rhythm blues, à se dire voilà, on pense à de la musique, à des slow jam, etc. Alors que c'est une musique qui était dansante à la base, et donc forcément c'est une musique qui était utilisée aussi pour sortir un peu de ce quotidien, en tout cas de ce moment très morose d'après-guerre, pardon. Et donc il y a plein de choses comme ça qui se passent pour que le rhythm and blues devienne cette première musique populaire noire qui fait un peu son crossover et comme tu disais un peu plus tôt et aussi commence à être écouté par des blancs parce qu'à ce moment-là justement je pense que c'est aussi une de ces premières musiques qui arrive à traverser on va dire la fracture raciale exactement à crossover comme ils disent aux États-Unis.
Dans le contexte de l'époque, on est encore en pleine ségrégation.
Complètement. Mais aussi cette popularisation là, elle vient parce qu'à ce moment-là, il y a les radios portables, je ne sais pas si on dit radio portable, okay, ouais, qui commencent à être populaires. Mmh. Et quand les radios portables deviennent populaires, c'est plus compliqué pour les parents blancs de contrôler ce que les jeunes peuvent écouter. Et donc forcément, les jeunes ont la possibilité d'écouter la musique qu'ils ont envie d'écouter, et ce qu'ils écoutent, c'est du rhythm and blues. Et c'est aussi progressivement aussi à cause de cette appétence pour le rhythm and blues que le rhythm and blues devient ensuite le rock and roll, parce que c'était une façon de rebrander la musique pour qu'elle puisse être écoutée par des blancs, tout simplement. Donc voilà, il y a plein de choses qui se passent comme ça dans les années 40, puis les années 50. Puis après, le rhythm and blues aussi commence à être beaucoup plus, à avoir une grosse proximité avec le gospel, okay, à la fin des années 50, surtout dans la musique de Ray Charles. Et donc, c'est avec le gospel qu'on a la soul. Et après, avec la soul, pour ne pas trop rentrer dans les détails, des années 70, après, il y a le disco, le funk aussi, en même temps, et puis le hip-hop, après.
C'est ça qui est marrant, ouais, en fait. C'est ouais, que le rhythm and blues, pour moi, du coup, c'était... un style de musique un peu suranné, tu vois, un peu vieillot. Et c'est pour ça que j'ai pas trop compris quand c'est revenu dans les années 90 qu'ils aient pris R&B pour le style de musique.
Parce que c'est vrai qu'il faut parler de ce switch. Là, tu as bien défini ce qui est à l'origine,
ouais, oui,
le rhythm and blues. Mm-hmm. Mais il y a un changement presque de sens du mot, ou en tout cas une évolution esthétique assez importante et même culturelle.
C'est une évolution esthétique, ouais.
Moi, j'avais lu même, je pense dans un magazine à l'époque, c'était peut-être L'Affiche ou un truc comme ça, que R&B c'était pour rough and black, tu vois.
Ah ouais.
Là, je fais OK.
Mais c'est un peu comme rap, tu sais, plein de gens mettent derrière.
Ils font des backronymes.
Ouais, absolument.
Mais ouais, en fait, il y a plus trop. Enfin, moi, quand j'écoute à l'époque Belle Biff DeVoe ou Boyz II Men sur le premier album qui était très New Jack justement, ou Poison, des trucs comme ça, je pense pas du tout à Otis Redding ou tu vois.
Se passe ce changement justement à ce qu'on appelle le R&B contemporain aujourd'hui?
Je pense que c'est progressif, c'est comprendre que le rhythm and blues c'est un peu on peut le considérer un peu comme une base, et à chaque fois il y a de nouvelles influences qui permet de transformer la musique en soul et ensuite en funk et ensuite d'abord en disco et puis ensuite en funk. Et dans les années 80, ce qui se passe essentiellement, c'est aussi un changement dans les instruments. C'est qu'on passe d'instruments organiques à des instruments beaucoup plus électroniques, aux boîtes à rythme, à l'insertion justement de tous ces nouveaux instruments qui viennent aussi du funk au final, et aussi des rythmes du funk qui sont repris par le hip-hop forcément avec les breakbeats, etc., et qui derrière s'insèrent progressivement dans le rhythm and blues, en fait, qui devient donc ce R&B là dans les années 80 essentiellement.
Si je comprends bien ce que tu me dis, c'est aussi parce que jusque-là on ne l'avait pas évoqué, c'est parce qu'en fait c'est un mouvement encore assez récent dans les années 80, le hip-hop, et le hip-hop est une des branches qui vient nourrir ce rhythm and blues et donner le R&B contemporain, on peut le dire de cette manière.
En partie, ouais. Le hip-hop via le funk aussi. Okay. Forcément. Donc, okay. Donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu toutes ces choses qui se passent, mais en même temps, on a ce R&B qui devient ensuite donc le New Jack Swing, et ensuite donc le hip hop soul au début des années 90, et puis redevient R&B tout simplement.
Tout ça, c'est des termes qui désignent la même chose, mais en fonction des époques, on a
qui désignent la même chose, mais pas forcément esthétiquement, parce que le New Jack Swing et le R&B du milieu des années 90, c'est pas la même chose.
Pas pareil. Ouais.
Le New Jack Swing, donc c'est ce style de R&B qui naît à la fin des années 80, créé par Teddy Riley.
De Blackstreet, de Guy.
De Guy, exactement.
Edition.
Voilà, tous ces groupes-là. Mais qui crée d'abord le son New Jack Swing en expérimentant avec Keith Sweat, sur le premier album de Keith Sweat qui s'appelle Make It Last Forever, qui sort en 87. Ils se rencontrent à Harlem. Et Keith Sweat, c'est un chanteur. Et à ce moment-là, Teddy Riley, il produit principalement des rappeurs. Okay. Et donc il comprend pas trop pourquoi ce chanteur vient lui parler, lui dire voilà, j'ai envie de travailler avec toi. Et finalement ils commencent à bosser ensemble, et ils arrivent donc à créer ce R&B là qui est très très inspiré en tout cas du hip hop, avec, parce que c'est les grosses percussions du hip hop, mais avec un chant,
les mêmes machines électroniques,
exactement, avec forcément cette caisse claire qui est très 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 marquée en tout cas dans la musique de Teddy Riley. Et le chant qui pour moi est principalement quand même formé, on va dire, par qui souhaite, où on a donc ce chant R&B qui est super bien produit, très long, qui peut être très langoureux parce que c'est lent quand même le premier album
qui vient de la soul.
Et justement, c'est juste pour répondre un peu à ce que tu disais un peu plus tôt, où est le lien, et je pense que ce lien là il arrive justement par la façon de chanter. Qui reste similaire quand on écoute la soul des années 60 ou la soul des années 70, on voit les liens quand même.
Les Delphonics ou des Stylistics.
Exactement, que ce soit la soul de Chicago ou la soul de Philadelphie, etc. On voit bien qu'il y a en tout cas une façon de chanter qui reste similaire. Une approche en tout cas de la production vocale qui est similaire, une approche de
une certaine technicité aussi de la voix.
Exactement.
Ouais. Justement, je crois que c'est vraiment quelque chose qui a toujours été mis en avant, genre sur le premier album des Boyz II Men, qui était très New Jack, alors qu'après c'est devenu très R&B justement, le premier album, donc c'est la caisse claire qui t'arrache les oreilles, etc. Mais les mecs faisaient un vrai effort d'harmonie, d'ailleurs l'album s'appelle Coolia et Harmonie, tu vois, et il y avait des vrais efforts, on sentait même l'école gospel de ces quatre gars-là qui chantaient vraiment comme une chorale en fait, et c'était très très propre.
Il faut qu'on s'écoute des extraits, est-ce qu'on peut dire, on sait que c'est un raccourci, mais que tu nous parlais de Teddy Riley. Est-ce que c'est un peu l'acte de naissance à travers le New Jack Swing du R&B contemporain? On peut parler un peu de ça, dire ça comme ça?
On peut dire en tout cas que c'est une tendance du R&B qui est très dansante, parce qu'en même temps, je veux dire, dans les années 80, il y a Teddy Riley, mais il cohabite avec des gens comme Luther Vandross, Anita Baker, où là, c'est pas du R&B du tout qui ressemble à du New Jack Swing, c'est du R&B où il y a des ballades, il y a aussi cette approche, en tout cas, de la mélodie et du slow jam qui est assez présente. Et je pense que ce sont ces deux R&B-là qui cohabitent. Et juste, je pense qu'il faut absolument les citer. On parle souvent de Teddy Riley, mais je pense que Teddy Riley n'existerait pas sans Terry Lewis et Jimmy Jam. En fait, qui travaille du coup sur Control de Janet Jackson, où on a déjà en tout cas des prémices de ce son New Jack Swing qui deviendra réellement New Jack Swing avec que ce soit les emprunts à la gogo de Washington DC, au hip-hop, au gospel, etc. Mais oui, je pense qu'il faut absolument citer Jimmy Jam et Terry Lewis.
Ils sont cités. Écoutons peut-être une production de Teddy Riley, un truc un peu emblématique de cette époque. Tu as une idée d'un titre qu'on pourrait écouter?
Alors, j'aimerais bien qu'on joue un titre. C'est vrai que je ne sais pas s'il est emblématique, mais pour moi, il faudrait jouer sûrement un titre du premier album de Qui souhaite, donc Make It Last Forever. Je pense que tu peux jouer.
Souhaite, très bien.
Qui souhaite.
Transpiration. Très bon nom.
Make It Last Forever, ok.
Last Forever, je pense qu'on peut étudier.
C'est parti.
Si tu connais pas ça, mec. Là, t'es repris après un milliard de fois.
J'avance un tout petit peu. Bon, là, très clairement, on entend la 808 déjà. Pour
c'est très slow.
Oui, c'est très slow. Mais je pense que c'est pas le son le plus emblématique. C'est clairement mais je pense qu'il est, il est incroyable ce titre-là. Ouais. Et je trouve qu'on a tendance à oublier que, voilà, avant qu'il y ait My Prerogative de Bobby Brown, qui est beaucoup plus up-tempo, je pense qu'il représente un peu mieux le
Jackson. On peut mettre un extra aussi.
On peut écouter ça. Allez. Je pense que, clairement, c'est peut-être un peu mieux.
Dans la caisse claire.
Et qui a été repris par Britney Spears. Oui. Beaucoup de gens connaissent la version de Britney Spears.
Exactement.
Ce qui est marrant, c'est que ces sonorités-là, ça a aussi du coup inspiré des gars qui étaient déjà en place.
Ouais.
Parce qu'on parle des nouveaux artistes, etc. Mais par exemple, t'écoutes toute la période de Prince avec New Power Generation, c'est 100% ce...
Et Dangerous.
Et Dangerous.
Bah, il a produit pour Michael Jackson.
Bah, Jam, notamment.
Il produit...
Qui est le titre New Jack de l'album, en fait. Mais même chez Prince, qui pourtant est
tu te dis le gars il est
toujours dans le futur.
Mais là il a monté carrément un collectif pour faire de la New Jack, quoi. Sauf qu'il l'a jamais appelé comme ça, mais c'était d'ailleurs le truc de Bobby Brown là ressemble énormément à ce que Prince pouvait produire à la même période, donc c'est j'adore.
Toi, ton sujet, de toute façon, dans le livre, c'est vraiment le R&B contemporain français. Il fallait juste qu'on fasse comme ça un petit point. Peut-être citer, parce que Teddy Riley, c'est pas forcément la personne la plus populaire. On a écouté Bobby Brown aussi. Ensuite, cette scène New Jack Swing, R&B contemporain, elle va donner quoi comme gros artiste américain qu'on peut juste comme ça citer avant de passer vraiment au contexte français?
Au début des années, au début des années 90, je pense qu'on peut dire Joe Dessy, on peut dire Mary J. Blige. Voilà. Après, je sais pas si c'est populaire, si c'est le nom le plus
connu. Les gens qui connaissent Joe Dessy, ils connaissaient Shy à l'époque.
Donc, du coup, je pense Mary J. Blige, peut-être le nom le plus facile en fait, à sortir.
Ce qu'on peut mettre aussi dans tout ça, bon, il s'avère que c'est un sale type, mais R. Kelly, qui a quand même été important.
Oui,
Alia, évidemment.
Boyz II Men.
Boyz II Men, TLC.
Bill Devo, donc BBD, bien sûr.
Ouais. Et puis un peu plus tard, TLC, Brandy et Monica, Destiny's Child. Ouais,
c'est ça. Mais
puis Teddy Riley, c'est Black Street, quoi. Enfin,
aussi, quand même.
Au bout d'un moment, il a réussi.
Moi, j'avoue
qu'à
part Nodigity,
tout le monde l'a entendu, ce morceau, tu vois. Alors que le gars, c'était son troisième groupe.
Son troisième, je pense que c'était pas le deuxième. Parce que Guy, c'est terminé. Et après Guy, il a fait Black Street. Juste après Guy.
Il y avait pas un autre groupe entre les deux?
Non, je pense. Je pense qu'après, c'est après Black Street qu'il en a fait un.
T'as vu les discussions?
Voilà, je lui parle de mon enfant.
Vas-y, on fait un plaisir avec un extrait de Nodigity.
Allez.
Allez, c'est parti. You know what? I like the players. No diggity, no doubt. Collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Say out. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting money like a magnet. Getting paid is a forte.
Each and every day, true play away.
I can't get out of my mind.
Wow. I think about the girl all the time. Wow. Ouais, si, là, ça avait plus.
Voilà en gros à quoi ça ressemble.
Bah oui.
On était aux États-Unis.
Je pense qu'on peut faire, on peut aller en France en partant du New Jack Swing. Parce que c'est, là, c'est le premier style de R&B français. C'est le premier style de R&B qui est adopté en France. Et donc il y a le New Jack Swing français au début des années 90.
C'est merveilleux, tu viens de nous faire notre transition. Parlons du développement d'une scène française dans les années 90. Mm-hmm. Pour toi, ça part d'une réappropriation du style américain New Jack Swing. Est-ce que tout de suite, ça, c'est une copie conforme ou est-ce qu'assez vite, on a un truc plus propre à la France qui naît? Comment ça se passe, cette transition des États-Unis à la France?
Alors, je pense que la transition, elle arrive aussi d'abord par le hip-hop. C'est essentiel de lier la scène R&B français à la scène hip-hop française.
Plus qu'aux États-Unis?
Oui, plus qu'aux États-Unis, parce que je pense que c'est une spécificité très française où là, on vient de parler du rhythm and blues, on a parlé de, je sais pas, 40 ans d'histoire du rhythm avant que les hip-hop n'arrivent, alors qu'en France, justement, ces liens-là, les personnes qui font du R&B au début des années 90 viennent souvent de la scène hip-hop. Ils étaient parfois, certains rappaient, certains étaient DJ. Donc il y avait en tout cas ce lien assez évident. Et justement, je pense que c'est pour ça aussi, c'est pour cette raison spécifique que le New Jack Swing est aussi ce type de R&B qui parle peut-être plus à ces générations-là, parce que c'est un R&B qui est très proche des sonorités hip-hop, qui a la même, on va dire, lourdeur du hip-hop, et qui permet justement de faire cette transition sans forcément aller trop loin. C'est pas le R&B de Luther Vandross qui aurait pu parler à ces artistes-là, c'est plus Teddy Riley. Et c'est intéressant justement parce qu'ils citent un peu tous Teddy Riley dans leur influence, que ce soit en France hexagonale ou dans les Antilles. Parce que quelqu'un comme Jean-Michel Rotin qui fait du zouk R&B au début des années 90 aussi, il cite Teddy Riley aussi dans ses influences. Donc du coup, il y a ce lien avec les États-Unis et avec la scène hip-hop. Et un lien aussi qui va au-delà aussi de donc ces influences un peu similaires. Et même pour la première compilation de R&B français, la personne qui l'a produit et qui crée donc le label Sensitive. Le livre s'appelle Sensible aussi en partie parce que le label s'appelle Sensitive.
C'est Benny Malapa, c'est ça?
Exactement. Ouais. C'est Benny Malapa qui lui aussi a d'abord produit Rap Attitude en 90.
Ah,
c'est le
pas,
producteur,
ça.
C'est lui qui crée la Belle Noire, qui
donc,
est
donc
derrière...
Donc juste pour un peu contextualiser pour les gens, donc Rap Attitude, qui
c'est la première compile de rap
la
français.
La première grande, qui encore aujourd'hui a marqué les esprits, c'est absolument mythique dans l'hip-hop, et il a aussi, alors ça tu vois c'est moins connu, donc fondateur du label Sensitive, qui est donc un label qui va produire beaucoup de R&B.
Qui va produire la première compilation de R&B français, qui sera une compilation de New Jack Swing. Spécifiquement. Et donc ces liens-là, je trouve qu'ils sont assez intéressants. C'est à la fois le producteur, c'est en même temps aussi les artistes qui étaient dans le mouvement hip-hop. Et puis je pense aussi juste des sensibilités, peut-être beaucoup plus proches et beaucoup plus faciles d'accéder à ce R&B-là qu'un R&B peut-être un peu plus luxueux qui était très présent dans les années 80 aux États-Unis et qui n'est pas celui que les artistes français pouvaient faire à cette période-là.
Oui, parce qu'en fait, il n'y a jamais eu d'équivalent de Luther Vandross en français.
C'est vrai.
Non.
Le seul truc à la limite, si j'ai bien compris, il me semble que tu le dis dans ton livre, c'est que les gens qui s'intéressent au R&B proviennent soit effectivement de la scène hip-hop, mais aussi de la scène funk.
Oui.
Parce qu'il y a une scène funk importante, notamment dans les quartiers, etc. En France, il y a un truc important autour du funk. Mm-hmm. Et ça aussi, ça peut être un lien vers le R&B.
Complètement. Et je pense qu'il y a aussi la scène jazz rock.
Ok.
Genre jazz rock, c'est du jazz fusion. Quelqu'un comme Hashim, par exemple, lui, il dirait que la plupart des artistes qui sont ensuite devenus la scène hip-hop et qui ensuite certains sont allés vers le R&B viennent aussi de cette scène jazz rock, en fait. Donc je pense qu'il y a des liens. Il y a des liens assez évidents. Donc justement, et je pense que quand on parle de funk, on peut aussi parler de hip-hop, tout simplement. Parce que les fans de funk étaient aussi souvent des fans de hip-hop.
Quels sont les pionniers français à cette époque, ceux qu'on retrouve par exemple sur la compilation de Sensitive? Est-ce qu'on peut s'écouter quelques extraits de trucs que tu trouves cool?
Alors, je dirais les pionniers, déjà, c'est N-Groove. N-Groove, donc on peut les considérer comme le premier groupe de R&B français à avoir sorti un maxi en 92. Donc un maxi qui s'appelait New Jack Swing, donc un titre New Jack Swing qui était un peu une sorte de B.A.B.A. du New Jack Swing où ils expliquaient ce que c'était, ils parlaient de la musique. Et ensuite donc N-Groove, donc dans le groupe N-Groove il y avait Tino, il y avait Hashim, il y avait Joss, il y avait le producteur aussi. Et ensuite donc Hashim est sur la compilation Sensitive qui sort en 94. Donc il y a Hashim qui est sur cette compilation et qui est aussi dans N-Groove. Il y a Karine, qui elle
qu'on
aussi...
Qu'on retrouvera bien plus tard d'ailleurs.
Qu'on retrouvera plus tard.
Une star du R&B contemporain français.
Complètement. Ouais. Et qui elle commence aussi ses premiers titres en les entend sur Sensitive. Donc en 94. Il y a Tribal Jam aussi en parallèle, qui eux ne font pas partie du tout du label, mais qui viennent de Bordeaux. Donc c'est aussi autre chose, parce que la scène de R&B français, elle est quand même principalement concentrée en... Île-de-France.
Comme la scène hip-hop en fait, ça c'est début.
Ouais, mais c'est marrant parce que la scène hip-hop, quand t'avais IPM ou IAM qui venaient d'autres villes, c'était considéré comme du hip-hop. Moi je me rappelle parce que je l'ai pris aussi. Je l'ai écouté.
IPM lyonnais.
Ouais. Oh. Bah oui, j'ai des refs. Mais du coup, quand moi j'entendais Hashim ou Karine, Tribal Jam, je les mettais pas exactement. Tu vois, pour moi c'était plus un truc.
Bordeaux. Pas...
Ouais, un peu variété, ça faisait
moins... provinciaux, quoi.
Ouais, je trouve que ça faisait moins, justement, hip-hop, au sens où nous, on entendait à l'époque, tu vois, avec leurs morceaux que tu certainement très bien. C'était C'est la nuit, non?
Oui, C'est la nuit. Je pense qu'on peut écouter.
Écoutons des extraits. On était sur N-Groove. Est-ce qu'on s'écoute d'un truc d'N-Groove d'abord?
On peut écouter New Jack Swing de N-Groove.
Et bah parfait. Tu me dis si c'est bien la bonne version, parce que là je vois c'est sous le nom de Hashim, mais il y a entre parenthèses N-Groove. Sur Spotify j'ai pas trouvé, hein. Mais par
contre, c'est pas sur Spotify.
Mais sur YouTube, on le trouve.
Sur YouTube.
Donc, c'est New Jack Swing de N-Groove.
Celui des New Jack Swing.
Alors, les mecs sont quand même trop forts parce qu'ils arrivent avec une nouvelle musique pour la France, d'une certaine manière, et ils mettent le nom de la musique dans le titre. Comme ça, tu vois, c'est assez clair pour tout le monde.
Nous, on fait du Jack Swing.
Ouais, voilà, faut présenter. On se rend compte qu'en termes de production, franchement, ça équivalait vraiment le modèle américain.
Oui.
Mais que dès que ça commence à chanter,
c'est pas la même chose.
Bah, ça passe mieux en anglais.
Et ça, d'ailleurs, tu fais bien de le relever, Daz, parce que. Autant les faire des instrumentales dans l'esprit américain, c'est pas compliqué. Autant adapter une langue, c'est pas la même chose.
C'est pas la même chose. Mais après, je pense que autant je peux être d'accord avec toi sur certaines choses, autant je pense qu'il y a quand même une. Ils ont bien adapté aussi la musique. Il y a, je pense qu'on peut peut-être écouter Tribal Jam, C'est la nuit.
Carrément.
Et C'est la nuit, c'est un super titre et ça chante et ça chante, ça chante vraiment.
Je me rappelais même pas du début comme ça.
Hein?
Ouais. Parce que là, oui. Tu vois. Ah ouais?
Et ça reste un peu. Donc là, on est en 94, c'est ça, hein, c'est ce que je vois sur YouTube.
94, oui.
C'est bien produit, là, en l'occurrence, c'est vrai.
Et ouais, j'avais complètement zappé l'intro, tu vois. C'est bizarre.
Mais est-ce qu'il y a quand même un débat chez les puristes, chez les amateurs de R&B, qui ont peut-être d'ailleurs le pied entre la France et les États-Unis, je sais pas, sur le fait que c'est adaptable avec la langue française, que certains y arrivent mieux que d'autres, que...
Alors, je dirais que sur le New Jack Swing, je ne sais pas s'il y avait réellement un débat. C'est pas quelque chose qui est revenu dans les entretiens que j'ai pu avoir avec les artistes. En revanche, il y a eu quand même, il y avait des discussions sur la nécessité justement et ce que ça signifiait d'adapter le français qu'on considère comme une langue moins mélodieuse que l'anglais, par exemple pour le R&B. Où Karine, en tout cas, elle me disait qu'elle a passé du temps à essayer de trouver des mots et des façons de chanter le français qui pourraient avoir la même, littéralement, qui swingaient comme en anglais. Donc c'est est-ce qu'on allonge les fins de phrase, est-ce qu'on dit on essaye d'éviter les L, les E et on essaye plutôt de rester sur des OU, des E, enfin pour que justement on puisse avoir ces mélodies là. Donc je pense que quand on parle de R&B français, il y a aussi toute la partie d'adaptation de la langue et pas uniquement imitation, parce que c'est compliqué de juste chanter du français comme si on chantait de l'anglais, tout simplement. Ouais.
Comment ça se passe ensuite? Là, on a écouté donc des pionniers, on a parlé de cette compilation de Sensitive, on a parlé de Tribal Jam là, tout dernièrement, d'En Groove avant ça... J'imagine que ça reste quand même relativement confidentiel au moment de la sortie. À quel moment ça commence? Parce qu'on parlera dans une autre partie des années 2000, où là ça devient très commercial. Mais j'imagine que déjà dans les années 90, il y a un moment où il y a des jalons, un moment où ça pop, où un truc qui explose, des tubes, de quoi?
Oui, il y en a un en 95, oui.
Et encore une fois, cette émission est totalement biographique. Moi, ça me permet de revisiter mon enfance.
Je vais voir si on va dire la même chose.
Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment, j'ai connu cette scène-là, donc Hashim, Karine, etc., sur une compile de Cut Killer, qui était un DJ fameux, DJ Cut Killer, tout le monde le connaissait bien à l'époque. Vous l'avez vu dans La Haine, hein, l'intro de La Haine, c'est lui qui mixe Assassin de la Police, qui, je le rappelle, n'est pas Assassin de la Police. Bref.
Assassin de la Police.
Voilà, KRS-One. Et en fait, sur Hip Hop Soul Party 3, il y a... Je crois que la compile s'ouvre avec Hashim. Et là, moi, en tant que gars qui écoutait du hip-hop, qui commençait justement à être en français, parce que le hip-hop a eu le même problème que le R&B, c'est-à-dire qu'au début, c'était compliqué de faire rentrer le français sur des rythmiques américaines en produisant comme des Américains, et il a fallu forcer pour que les gens s'habituent, que l'oreille apprennent aussi à apprécier les rimes, et à la fin, le hip-hop français, plus personne se pose la question, tu vois, le rap français, bien sûr. Et en fait, sur une compile de rap français où il y avait les X-Men, il y avait Lunatic, il y avait tout ça, il y avait Hashim, il y avait Karine, qui chantait, et ça tabassait. Et justement, pour moi, à l'époque, j'ai dit, waouh, ça y est, on a un truc qui groove, tu vois, qui respecte nos codes de hip-hop, de musique afro-américaine, mais qui arrive à le faire en français, et ça sonnait bien, en fait. Et j'ai peur de le réécouter, ce truc-là, parce que ça se trouve, c'est tout
mais,
pourri.
Mais c'était plus tard. C'était plus tard, en fait, parce que je pense
ça,
que.
Ça, c'était 96.
Ouais, c'était beaucoup ouais. plus tard, parce que. Enfin, beaucoup plus tard. Pas beaucoup plus tard. Et je pense
c'est
aussi
un an
que...
après celui auquel tu penses. En 95, je pense qu'on a le même.
On a le même qui au fait le Winter, en fait.
Bah, bien sûr.
Mon Dieu
bah, bien sûr, Dieu m'a donné la foi.
Oui, voilà. Mais en fait, je pense que. La perception, parce que je pense que pour le grand public français, ouais. c'est Ophélie Winter. Et maintenant, pour un autre public, je ouais, pense qu'il est peut-être plus proche du hip-hop.
Plus puriste, ouais.
Exactement.
Ouais,
c'est, ouais. C'est sûrement
c'était
Cut Karine Killer.
Et
peut-être un peu QTB. Il avait fait une ouais. compilation aussi en 95, juste ouais. avant Cut Killer. Ouais, ouais. Donc peut-être voilà plutôt ces DJ
là. Ah oui là vous parliez mainstream pardon.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'au niveau mainstream en tout cas au niveau du grand public français c'est Ophélie Winter.
Allez on s'écoute un extrait. Tout le monde connaît ça. Dieu m'a donné la foi.
J'étais assise sur une pierre. Les larmes coulaient sur mon visage. Je ne savais plus comment faire.
Fais les amours, te moque pas.
J'ai trouvé en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là.
En vrai le morceau il est bien. L'intro est ridicule, je suis d'accord.
J'y ai baigné mon âme.
Ah oui, avec les synthés et tout.
J'avance un tout petit peu. Le pont et le refrain derrière et après on arrive.
Ah ouais, t'aimes bien, j'ai le refrain.
Ok, bon ça c'est un méga tube en France.
Oui.
Est-ce que c'est comme ça que le grand public effectivement se... Est-ce que Ophélie Winter à l'époque... Je sais pas d'où elle sort d'ailleurs. Tu racontes un peu quand même dans le mm-hmm. bouquin l'histoire de ce tube. Pourquoi elle fait ce genre musical là? Est-ce que c'est sa culture? Elle provient de ça? Elle avait écouté avant N Groove machin etc. Elle est porteuse de cet héritage. Alors ça se joue à quelques années tout ça.
Est-ce qu'elle était réellement dans le mouvement ou est-ce que c'était une fraude? C'est ça que tu veux savoir?
Un peu.
Oh là là.
Non mais il est étonnant ce tube.
Je pense que la réponse est dans la question. Mais Ophélie Winter, elle vient de la télévision. Ophélie Winter, certes, elle avait fait des titres quand elle était beaucoup plus jeune. Je pense qu'elle a commencé à chanter peut-être à 17 ans, quelque chose comme ça. Mais elle avait fait des titres très variétés. Et puis, à un moment donné, elle était beaucoup associée à Prince parce que elle a une relation avec avec Prince ouais, quand elle avait 17 ans aussi je pense au même moment et donc son premier album qui devait sortir ouais. voilà. Le premier album qui devait sortir il y avait des rumeurs que Prince aurait produit certains titres, bon l'album n'est jamais sorti en question l'album sur lequel il aurait travaillé n'est jamais sorti et donc en parallèle elle a été repérée par Thierry Ardisson qui lui a permis ensuite d'entrer à la télévision donc elle devient présentatrice télé elle est visible à la télévision française c'est un visage, c'est une plastique c'est une femme grande, blonde aux yeux bleus qui vient de Neuilly-sur-Seine enfin je veux dire c'est des standards quand même spécifiques. Et qui décide du coup de faire du R&B en 95 mais surtout parce que avant il y a quand elle fait donc la promotion de cet album sur lequel elle travaille elle parle beaucoup de ses influences qui viendraient plutôt de la Motown donc c'est plutôt Aretha Franklin elle dit voilà moi j'écoutais ces grandes voix de l'époque des années 60 la soul très industrialisée de Motown donc c'était ça ses références. Et donc forcément quand elle fait Dieu m'a donné la foi, on peut se poser la question, on peut se demander mais est-ce qu'il y a un lien avec je pense qu'on comprend qu'il n'y a pas de lien parce que de toute façon la musique qu'elle fait ne ressemble pas à ce que la musique que les autres font.
C'est vrai.
Les productions spécifiques, en tout cas elle est produite par des producteurs belges d'origine congolaise qui s'appellent Groove Syndicate Production et c'est eux qui façonnent le groove on va dire de la musique d'Ophélie Winter et c'est un groove qu'ils appelaient le groove à la française c'est eux qui ont produit Mélomane par exemple juste avant
Mélomane, bien sûr bah oui
moi j'étais pas né hein. Non c'est pas vrai j'étais né
Mélomane c'était du rap
Exactement. Et donc, mais en tout cas, c'est le même rythme. En tout cas, c'est ce groove en fait qu'ils vont chercher un peu aux États-Unis parce que ça, ça ressemble quand même à ce que Janet faisait. Hey, Mr. DJ, c'est un peu le même, c'est la même base rythmique. Sauf que eux, il y a un truc qui est très, on va dire, qui relève un peu du gimmick, je trouve. Où voilà, quand on écoute Dieu m'a donné la foi, il y a ce truc très gospel, mais voilà, on met littéralement des chorales. Donc ouais. Le chant. On a l'impression que c'est pas un chant qui est R&B à l'époque où le R&B américain ou même le R&B français, c'était pas ça, c'était pas des gimmicks comme ça pour dire je chante de la musique gospel et je mets des gens qui crient comme si on était à l'église, enfin voilà, c'est pas du tout ça. Mais eux ils avaient cette chose-là et tu parlais des synthés très difunk aussi.
Complètement.
Voilà, donc il y a en tout cas ils avaient un son particulier, et c'est ce son-là je pense qui séduit. Plus que parce qu'Ophélie Winter elle fait déjà de la musique et c'est un peu le single de la dernière chance, c'est le dernier single qu'elle peut sortir et elle décide de travailler avec ces producteurs là qui ont déjà montré qu'ils pouvaient fonctionner avec Mélomène par exemple.
Ce qu'on retrouve, ce qu'on peut assimiler au R&B, alors soit on y voit de la technique vocale, soit si on veut être un peu plus dur, une voix très maniérée. Où ça exagère un peu.
Limite, il prend des accents anglais parfois.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est pour ça. C'est très. En tout cas, dans Ophélie Winter, quand on écoute Ophélie Winter, on sent vraiment qu'il y a ce truc de. C'est pas naturel. Je fais comme. En fait, et justement, je pense que vraiment, moi, ce qui peut me déranger un peu dans ce R&B là, c'est justement toutes les gimmicks en fait. Et justement, même visuellement, quand elle a sorti son titre sur les plateaux télé, elle était accompagnée d'une chorale. Et là, tu te dis, mais une chorale principalement des noirs, elle était en basket, voilà. Donc du coup, il y avait quand même quelque chose où on disait, voilà, je veux absolument marquer ma musique pour dire, voilà, je fais une musique qui est afro-américaine et je dois être avec des noirs, etc., etc. Donc du coup.
Justement, ça nous permet d'aborder un point quand même important, et je sais qu'il te tient à cœur aussi, c'est que la musique comme phénomène culturel est aussi un moyen de représentation, évidemment. Cette musique, tu l'as dit, elle vient de gens avant tout passionnés par le hip-hop, plutôt de quartiers populaires en général.
Oui.
Issus de diaspora souvent aussi, d'immigration, ce qui n'est pas le cas d'Ophélie Winter. Dès les débuts du R&B, il y a un aspect aussi presque, je dirais quasi revendicatif, ou en tout cas politique, ou l'idée en tout cas de se montrer tel qu'on est, d'où on vient, etc.
Bah, je dirais que peut-être que le côté revendicatif, il est peut-être moins affirmé que. Si on a une lecture. De la revendication comme dire spécifiquement ce pourquoi on lutte, etc. On dira voilà, que l'R&B n'est pas forcément revendicatif, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est quand Hashim, par exemple, il parle de ce qui, lui, l'a séduit dans l'R&B, c'est que c'était une nuance, en fait. C'est que quand il était dans le mouvement hip-hop, il sentait qu'il n'y avait pas cette nuance qu'il recherchait, il cherchait des mélodies.
À quel niveau, la nuance ?
Alors, au niveau musical. Donc, il avait besoin, en fait, de cette musique qui lui permettait d'être, justement, à l'intersection de toutes ces influences-là et qu'il les il a retrouvé dans le R&B, dans le R&B spécifiquement. Et surtout, je pense aussi que, et là, je me base sur un autre entretien que j'ai eu avec Tino, donc créateur du groupe N-Groove, qui parle beaucoup aussi de cette nécessité, pour lui en tout cas, de ne pas avoir à parler de sa condition, parce qu'il a grandi à Vitry-sur-Seine en 94, il sait en fait ce que c'est que de vivre en cité, etc. Mais lui, il avait envie de parler d'amour, en disant, voilà, il y a aussi de l'amour en fait, il y a aussi cette expression en fait de l'intime qu'il lui recherchait. Donc si on va dans le politique, pas le politique très revendicatif, pas le politique, voilà, je suis contre le système, etc.
Non, mais être là, c'est déjà un acte politique, d'une certaine manière, pour certaines personnes, en tout cas.
Exactement, et je pense que c'est plus dans ce côté-là. Et il y a aussi une grosse partie qui est aussi évasion, qui est juste cette sorte de, comment, escapisme, comme ils disent, d'évasion, en tout cas, de sa réalité, que le R&B permet. Où justement le hip-hop est très ancré et le R&B c'est plutôt moi aussi j'ai envie de, je sais pas, je peux sortir en fait de ce cadre, en fait je peux pouvoir parler d'autres choses.
Je pense que c'est ça qui a créé un petit peu la scission en fait au début du truc, c'est que bah pour les gens qui étaient justement ancrés dans le hip-hop, qui avaient des choses à dire, des revendications, etc., du coup les artistes R&B c'était un peu les benets qui calculaient pas la vie en fait, tu vois, qui étaient tout le temps en soirée ou en train d'essayer de chiner des meufs et qui du coup étaient un petit peu légers, et c'est cet écart là qu'il y a eu à un moment donné et qui a pu se réduire quand le hip-hop s'est dit tiens, on va faire featurer des artistes de R&B pour chanter nos refrains, tu vois, et là du coup en fait les deux trucs se sont regroupés
Et ça a permis justement au R&B d'avoir une légitimité aussi qu'il avait peut-être pas au tout début, parce que c'était très festif et peut-être pas assez réaliste, réel, tu vois.
Parce que je pense que c'est intéressant ce que dit Daz, parce qu'effectivement il y a aussi la question des featurings derrière qu'on va retrouver énormément dans le rap, dans le hip-hop. Ce que j'aimerais juste un petit peu avant peut-être, c'est on écoute quelques extraits d'autres personnes importantes après Ophélie Winter, pour clôturer un peu les années 90. Bon, avec N'Groove, on a écouté un peu Hashim d'une certaine manière. Peut-être ceux d'après.
Karine.
On peut écouter Karine, peut-être.
On peut écouter Karine. Wallen, dès les années 90, elle est active.
C'est fin des années 90, Wallen plutôt. C'est bien après Karine.
On peut écouter du Karine.
On peut écouter Choisy, peut-être.
Allez, Karine, Choisy.
Choisy. Ah, bah bien sûr. Hip-hop Soul partie 3, les amis.
Pareil, alors ça, j'ai l'impression que...
Oui, c'est vrai, il y a plusieurs versions.
Sur Spotify.
Non, cherche pas sur Spotify. Oh là,
c'est
sur
terrible.
YouTube,
mais tu vois, ça montre bien qu'il y a un manque de considération, de préservation d'une forme de patrimoine, etc. Clair, là, si on trouve pas tous ces morceaux.
Il y a beaucoup de morceaux qui sont pas... qui sont pas sur, sur les plateformes.
C'est effectivement la compilation Cut Killer.
Hip-hop Soul partie 3.
Écoute, avec ça, avec Fab en plus,
avec
ce morceau.
Fab, bien sûr.
Donc déjà là, on a du featuring avec des rappeurs.
Ouais.
Allez, on s'écoute un extrait. Karine, Fab, Choisy.
Je pensais à la version de Cutie, mais celle-ci.
Ouais, c'est ça, ouais, ça marche.
Cette fois, je me sens menacée. Dans ton attitude, je vois un changement évident. Si j'ai tort, dis-le sans tarder. Et je ferai comme si je te croyais.
Ce qui est intéressant, c'est que Daz lançait sur le côté. En gros, le R&B, c'est la légèreté. Ou ça peut être considéré comme tel, alors que le hip-hop, et toi-même tu le disais, c'est ancré dans le réel, etc.
Après, je pense que ça dépend. Mais comme je disais, l'intime, c'est le réel aussi.
Je suis bien d'accord. Mais
ouais,
juste
c'est ça. Et donc, je pense que c'est, où moi, je nuancerais, c'est plutôt que je pense que c'est... Est-ce que c'est réellement que le R&B était léger, ou aussi il y avait juste aussi une sorte de forme de virilisme qui venait aussi avec le hip-hop, et où les premiers artistes de R&B français, c'était souvent des hommes noirs spécifiquement, et qui arrivaient, qui étaient habillés comme des rappeurs, mais qui venaient chanter. Donc c'est aussi quelque chose qui pouvait revenir dans les témoignages que j'ai pu avoir de certains artistes qui disaient c'était dur. On disait c'est quoi cette musique
À ce moment-là, les thèmes, parce qu'on a parlé de l'esthétique sonore, on a écouté quelques extraits, etc. D'ailleurs, ça, c'était 87 aussi, c'est issu, comme tu le disais, effectivement, de la compile, la fameuse compile qui t'a marqué. Mais de quoi on parle à ce moment-là ?
Souvent d'amour.
Ben que d'amour.
Souvent, pas que d'amour. Il y a aussi justement de fêtes, célébrations, etc.
Oui, mais enfin voilà, pas mais de sujet de société sur ma place dans le monde. Enfin, tu vois, c'est pas.
Et sous quelle forme ? Qu'est-ce qu'on raconte dans les paroles globalement du R&B ? Mais dans le livre, par exemple, ça, je trouve que c'est une qualité du livre. Régulièrement, tu mets des paroles de morceaux, etc. Oui. On a plusieurs vers, plus. Et effectivement, ça permet aussi de concrétiser tout ça et de voir qu'il y a une spécificité.
Ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Hashim, sur cette compilation-là, son morceau, c'est Largué sans repère, tu vois, où justement, il rêve d'un monde plus vert, d'un monde sans misère, etc. Donc, c'est un peu plus justement revendicatif, moins dans le « il faut que je séduise cette nana parce que je suis un chasseur », etc. Là, c'était vraiment le gars, il dit « je suis largué ».
Mais ça aussi, c'est intéressant parce qu'au final, c'est... La proximité avec le hip-hop, pour moi, spécifiquement, je pense qu'elle a peut-être desservi le R&B dans ce sens-là aussi, où les artistes se sentaient parfois obligés d'avoir ces thèmes très liés à la, entre guillemets, la rue. Quand on a un titre comme, on parle de R&B de rue bien plus tard en 2001, mais je pense que le R&B de rue, il existe avant, parce qu'il y a ces artistes-là qui font des titres qui sont proches dans les thèmes, des thématiques des rappeurs. Aussi justement je pense que parce qu'à un moment donné tu parles d'amour donc tu perds en fait le soutien peut-être des artistes, enfin des rappeurs.
Oui,
des
c'est de la musique de canard.
Exactement.
Sûr,
et en même temps t'es pas forcément accepté par la variété française ou par le grand public français, donc il faut
qui te voit comme un rappeur, c'est ça qui est marrant.
Exactement, c'est ça. Et c'est que parce que t'arrives, tu ressembles au rappeur,
en fait,
t'as exactement les codes, mais tu arrives et tu dis voilà. Pour eux c'est la même chose, ils se disent mais, et justement il y a toujours cette projection, et je pense que qui va peut-être au-delà toujours de qu'est-ce qu'on à quoi on associe des hommes, spécifiquement des hommes noirs quand même dans les années 90, parce que ça c'est un autre sujet, je sais pas vous qu'on en parle, mais il y a pas vraiment de chanteurs de R&B maghrébins en soi. Ouais.
Alors qu'à l'inverse, il y a beaucoup de femmes maghrébines.
Il y a beaucoup de femmes maghrébines, il y a beaucoup de femmes noires, d'hommes noirs, mais il y a pas de chanteurs de
R&B. Il y a pas de chanteurs de R&B maghrébins.
Il y en a, j'ai cherché, il y en avait un qui a sorti un album en
un peu mais c'est Ryan B quoi,
exactement.
On en parlera
après. Et Amine aussi, il y a eu après je pense que quand Amine lui il chantait, il y avait pas mal de gens qui disaient ah mais qu'est-ce qui enfin il y avait des on questionnait sa sexualité parce qu'il chantait du R&B. Ouais. Donc, mais sinon,
il faudra attendre presque le descendant d'Amine de manière. Ça va peut-être choquer, mais c'est Hamza. De manière aujourd'hui.
Oui, c'est vrai.
Je l'attendais pas.
Non, mais tu sais, ce truc, tu sais, de très R&B, une certaine sensibilité
aussi. J'adore le lien.
Non, mais il y a un truc pas délirant.
J'adore le lien.
Ils étaient petits les deux aussi.
J'adore le lien. Il est tout super. J'aurais jamais pu le faire, mais je le trouve super ce lien en fait.
Okay.
Parce que justement, quand on regarde des années 90 de respect, aux années 2000, il n'y a pas vraiment de chanteurs de R&B maghrébins.
Non, mais c'est vrai que, en fait, dévoiler sa sensibilité devant un micro, c'était mal vu hein, à l'époque.
Complètement. Complètement.
C'était vraiment très très mal vu, effectivement.
Et d'ailleurs, parce qu'on parle du contexte français, on avait commencé un peu en ouvrant aux États-Unis. C'est bien parfois d'y revenir, ce que tu fais d'ailleurs dans ton livre. C'est avant tout la France, mais tu fais des allers-retours réguliers avec les États-Unis. Cette question de la sensibilité, d'une forme de scission avec le monde du rap, le monde hip-hop et le monde R&B, ça existe aussi aux États-Unis. On se pose les mêmes questions ou pas? Ou c'est spécifique à la France?
J'ai envie de dire que c'est spécifique à la France. Ouais. C'est spécifique à la France parce que dans les années 90, certes, il y avait le hip-hop soul, je pense, et même le New Jack Swing. Ou juste, je pense que en tout cas, ce qui est assez évident aux États-Unis, c'est à partir d'un moment très particulier dans les années 90, le R&B et le hip-hop deviennent liés. Donc il y avait comme on disait, la catégorie rhythm and blues, à un moment donné, elle devient R&B hip-hop. Aujourd'hui, il y a un chart qui est R&B hip-hop aux États-Unis qui existe depuis les années 90 à peu près.
On a amalgamé les deux vraiment, quoi.
Exactement, parce que justement, il y a cette proximité du son, de l'esthétique. Où à un moment donné, Billboard se dit c'est sûrement intéressant de lier ces deux musiques-là. Mais aux États-Unis aussi, ça n'a pas forcément servi des chanteurs de R&B. Surtout même, je pense spécifiquement dans les années 2010, en fait, où à un moment donné, le hip-hop prend le pas aussi sur le R&B.
Ingéré, en fait.
Complètement aussi.
Il l'a ingéré.
Ou esthétiquement, à chaque fois, les chanteurs de R&B se sentent obligés de se calquer sur ce qui se passe dans le hip-hop. Si il y a la trap à un moment donné, bon, on va faire du trap R&B. Si, voilà, à chaque fois, il y a cette proximité-là. Mais en revanche, je ne me rappelle pas d'artistes de hip-hop qui ont pu dire oui, non, mais les gars, ils chantent de l'amour, je vais pas me rapprocher d'eux. C'était pas le cas. Mais en France,
en fait, c'est vrai que on n'avait pas d'artistes français. Parce que les Américains, avant d'arriver au R&B, du coup, effectivement, ils sont passés par Luther Vandross, Teddy Pendergrass.
Exactement.
Donc des mecs qui étaient. Ouais. Des Barry White, qui étaient ultra virils, mais qui aussi disaient je t'aime bébé, tu vois. Et pour eux, c'était normal.
Ouais.
Nous, on n'avait pas ça, en fait.
C'est la culture, en fait.
Ouais,
c'est la culture
on avait
du
pas
R&B.
Du tout ça. Donc en fait, quand d'un seul coup, tu faisais tomber la doudou Nelly Hansen pour prendre le micro et dire que tu aimais une femme, tout le monde te traitait de canard. Je dis, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Parce qu'on n'avait pas justement les exemples, on n'avait pas les aînés, les tontons, tu vois, qui faisaient ce genre de truc. Et je pense que vraiment, il y a eu des blocages de fous à ce moment-là. Hein.
Beaucoup.
Il y a tout un passage dans le bouquin, parce qu'on a évoqué la représentation tout à l'heure, et juste dire aussi que c'est une certaine manière un acte politique de juste être là. Quand on est une minorité en particulier, dire je suis là, je fais des trucs et je me montre auprès du public, ça, c'est fort déjà. Et il y a tout un passage dans ton bouquin sur le clip. Le clip, parce qu'il est encore très puissant à ce moment-là. C'est seulement au cours des années 2000, en fait, que le clip va prendre une place différente. On pourra le produire beaucoup plus facilement. Nouveaux appareils, on en a déjà parlé dans cette émission.
Ouais.
Mais dans les années 90, il y a une époque où on met beaucoup de fric dans du clip. C'est important. D'ailleurs, les plus gros budgets de l'histoire des clips, c'est toujours des années 90. Et bref, toujours est-il que les clips, c'est du visuel. Oui. Et donc, on voit les gens qui interprètent. Et tu as parlé du fait qu'il y avait des hommes noirs à l'origine du R&B. Alors là, complètement l'inverse du hip-hop et du rap, beaucoup de femmes aussi qui arrivent très vite, notamment des femmes maghrébines, effectivement, comme tu le dis. pourquoi, par exemple, les femmes sont beaucoup plus représentées dans le R&B? Pourquoi des catégories de la population en particulier? Pourquoi il y a autant de femmes maghrébines, par exemple, dans le R&B? C'est vrai, c'est étonnant. T'as une explication, toi?
Je sais pas si j'ai une explication qui va au-delà du fait que dans la musique française spécifiquement, avant l'arrivée, on va pas parler du zouk, parce que dans le zouk déjà, il y a déjà des artistes noirs caribéennes qui existent dans le zouk. Mais en tout cas, au moment où les musiques noires à la française arrivent dans les maisons de disques, dans les années 90 spécifiquement, je pense que c'est important d'avoir des artistes qui ressemblent aux artistes américains. Donc d'avoir, par exemple, en 92, il y a Native, on n'a pas beaucoup parlé de Native, mais il y avait Native, qui était peut-être considéré un peu plus comme variété, même si parfois on les mettait dans R&B,
soul. Parce que peut-être aussi que c'est les gens qui portent cette culture, et c'est normal que ce soit eux qui la représentent, même en maison de disques. Enfin, j'espère qu'il y avait cette réflexion.
Exactement.
Ophélie Winter te fait dire le contraire.
Ça, c'est vrai. Après, il y a ces effets-là.
Mais Ophélie Winter, c'est, j'ai envie de dire, c'est pas l'exception qui confirme la règle, mais quand même, il n'y a pas beaucoup d'artistes, il n'y a pas beaucoup de femmes blanche dans les années 90, dans les années 2000 c'est autre chose. Dans les années 90, elle est quand même une des rares. Donc on a à la fois donc des natives, des Karine, des Sophie, à partir du milieu des années 90, il y a China Moses qui arrive, il y a Terry Moïse, il y a plein de groupes, il y a Mel Groove, il y a ADM.
Terry Moïse, tu considères ça comme du R&B?
Terry Moïse, je la mets en fait à l'intersection de plusieurs styles, dont je la mettrais à la fois soul dans R&B, parce qu'il y a des titres sur son album, je pense, des choses comme Il était mon avenir ou ce conseil qui pour moi on s'est influences, en tout cas R&B, en tout cas une production aussi vocale qui pour moi me rappelle le R&B, pas tout son album parce qu'il y a aussi de la variété, il y a du folk, il y a même du compas dans cet album là donc du coup il y a beaucoup de musique quand même assez différente, mais je pourrais la mettre aussi dans R&B. China, ADM, Exclusive, après ça il y a eu beaucoup d'artistes en fait, et justement c'est un genre musical donc dans lequel, en tout cas en France hexagonale, ces artistes là qui n'étaient pas forcément présentes avant pouvaient exister, on pouvait leur faire confiance, et forcément tu parlais des clips, à ce moment là c'est un peu le principal moyen de promotion pour un artiste, de faire un clip pour qu'il puisse passer à la télé, et puis il n'y avait pas YouTube à l'époque, donc
il y avait M6
donc on pouvait passer son clip sur M6 par exemple, et moi ce qui m'a intéressé, c'est que forcément dans mes recherches personnelles qui sont pas forcément liées directement au livre, mais des choses qui m'intéressent en général, qui dans mes recherches visuelles, parce que j'ai tout un blog de recherche sur la présence des femmes noires dans l'art contemporain, etc. Je me suis posé la question aussi en regardant le cinéma en France spécifiquement, et surtout les années 2010 où il commence à y avoir beaucoup plus de réalisatrices noires visibles qui font des films. Et c'est des films aussi où il y a beaucoup de réponses un peu au contexte français où on dit on existe, on est là, etc. Et je me suis demandé si avant les années 2010 il y avait déjà eu des réponses, parce qu'au final quand on regarde le contexte audiovisuel ou le paysage audiovisuel français des années 80, 90, 2000, il n'y a pas... Quand il y a des noirs ou des arabes, c'est dans des rôles stéréotypés quand ils sont absents, ils sont absents, soit dans des rôles racistes, stéréotypés, etc. Et je me suis demandé, est-ce qu'il y avait d'autres endroits où ils pouvaient exister sans forcément avoir à passer ou à se conformer à cette vision en fait très réductrice en fait de leur vécu, et il fallait que je regarde les clips en fait. Voilà, c'est ça, et j'ai commencé à regarder les clips, je me suis dit ah ouais, dans les clips il y a autre chose. Et donc ces femmes là elles arrivent à avoir des rôles principaux, elles créent des sortes d'utopies, elles voyagent, enfin, alors que dans la fiction française on nous dit bon, c'est des femmes qui vivent en banlieue et qui sont persécutées par les hommes noirs et arabes, voilà c'est ça, qui sont violées, etc. Enfin toutes ces images là et je trouvais que dans les clips on avait autre chose,
l'émancipation en fait,
complètement.
D'ailleurs, je précise pour faire un peu de pédagogie, parce que je pense qu'on est dans un environnement, nous, on a l'habitude de parler de ces questions-là, d'être un peu politique, etc., de parler des origines, de la couleur de peau, entre guillemets. C'est pas lié à la question de compter les Noirs, les Arabes, etc. C'est juste dire que quand t'es une minorité, ta présence a un sens différent, culturel, et comment tu portes cette musique aussi, que tout ça nourrit la musique en elle-même, en fait, et l'impact qu'elle a autour de soi, des gens qui la font, etc. C'est pour ça que c'est pertinent de parler de tout ça, c'est intéressant.
Ouais, complètement.
Est-ce qu'on passe aux années 2000? Là, tu penses qu'on a fait un petit point à peu près complet sur les 90 complets? Il faut lire ton livre si on veut être vraiment complet.
Je pense que, après, juste pour rebondir sur quelque chose, tu parlais de la perception, en fait, par exemple, des rappeurs, et je pense que cette perception-là aussi, elle se retrouve dans les, enfin, la perception du R&B par les rappeurs. Je pense que cette perception-là, elle se retrouve aussi dans les médias, parce qu'un des problèmes du R&B français, c'est que la première décennie d'existence du R&B français, les gens ont tendance à l'oublier. C'est pas une musique qui a pu s'installer en France. On considère que c'est de la soupe parfois. On voyait les chanteurs de R&B comme des rappeurs, donc on comprenait pas trop pourquoi ces mecs venaient chanter de l'amour alors qu'ils sont censés avoir des problèmes plus graves. Donc il y avait ce truc un peu très réducteur de ce sont des hommes noirs qui ressemblent à des rappeurs, on veut qu'ils parlent
Il faut peut-être parler aussi du rôle des majors
aussi,
qui n'ont pas forcément produit pour la beauté de la musique et qui du coup ont dévoyé aussi
Et bah t'as bien raison, mais est-ce que c'est pas encore plus visible dans les années 2000 ça, est-ce que ça nous permet pas justement de...
Je pense que c'est peut-être ça commence à être visible dans les années 90, peut-être en regardant le destin des artistes qui ont posé des refrains.
Parce que c'est vrai que ça, on l'a pas évoqué. Est-ce que dans les années 90, tu as quelques exemples de, où c'est vraiment au refrain qu'on retrouve du R&B, donc dans le rap, des trucs marquants?
À partir du milieu des années 80, deuxième moitié des années 90,
Bad Boys de Marseille, c'est quand ça?
Ou Karine, Bad Boys de Marseille, je crois que c'est 95.
Ok, Dev Bond, Karine, c'est quand ça?
C'est plus tard, je pense que c'est 97, 98.
Mais ça, c'est des exemples, mais éventuellement, qu'on peut écouter
plein d'autres. Après, je pense que la première occurrence, c'est Asia. Sur les ratés
et les
Lascar, voilà.
Ministère amer. Doctorel à la prod.
J'adorais les bandits, y'en avait qui taffaient pour être les premiers de la classe. Pour être le plus fort de l'école, je me battais contre des masses. J'étais encore petit.
Ok, et donc sur le refrain. Donc ça, gimmick, mettre une chanteuse R&B dans le rap, c'est un truc dont on parle souvent.
En plus, à l'époque, très inspiré peut-être aussi de la D-Funk. Rap californien, pas de D-Funk, mais rap californien.
Ouais, 100%.
Voilà, donc à ce moment-là, il mettait beaucoup de chanteuses aussi sur les refrains.
Mais il mettait des chanteuses, et le ministère Hammer l'a très bien fait, c'est que les Américains mettaient aussi des chanteuses et ne les respectaient pas.
Tu vois,
parce que c'est ça.
Oui, ils les créditaient pas, il n'y avait pas de mention de leur nom, etc.
T'as un artiste comme MC8 qui, juste avant son refrain, fait Bitches sing, et là t'as les meufs qui chantent le refrain, et tu fais waouh les gars, quand même. Et en fait, ils ont vraiment calqué ce truc là.
Le début de ce titre là, on l'a coupé, mais c'est complètement sexiste.
C'est une phase en studio, ouais.
Et
c'est marrant parce que après, Asia est devenue la dame du secteur A, en fait. Vraiment l'étendard
qui a beaucoup travaillé avec eux.
Qui a participé à tous les albums, etc. Mais là, elle avait vraiment un rôle qui était très très subalterne.
Et dans le rap californien, si je dis pas de bêtises, on pouvait faire effectivement ce refrain chanté, mais on n'avait pas de souci à ce que ça soit un homme aussi régulièrement.
Oh bah, Nate Dogg,
évidemment. Alors que dans le rap français.
Dans le rap français, après, il y a eu Jimmy Sissoko.
Ouais. C'est vrai.
Il y a eu Jimmy Sissoko. Dont je parle d'ailleurs dans le livre.
Donc années 2000 là pour le coup.
Années 90.
Ah bon ?
Il travaillait avec le secteur A. Il est par exemple sur Viens voir le docteur, c'est sa voix. Il y a sa voix, ils sont trois. Et il y a la voix de Jimmy Sissoko. Il a une voix très aiguë, donc peut-être parfois on se rend pas compte qu'il peut être sur des titres, mais il est sur des titres à partir des années 90.
Mais du coup, donc là c'était Viens voir le docteur, je vois, c'est des chœurs quoi, c'est pas.
C'est ça, c'est des chœurs.
T'as pas un refrain avec un gars au micro qui chante avec une voix grave.
Exactement. Et je pense qu'au début il y avait beaucoup de ça, il y avait beaucoup de chœurs, beaucoup de choristes, pas forcément des refrains. Et puis il y a eu des refrains, mais on voulait toujours pas donner de couplet par exemple. Ouais. Parce que quelque chose dont Matthew Stone parle sur R&B de rue, c'était aussi motivé par des demandes constantes qu'il avait, où on lui dit on aimerait que tu poses sur un refrain, et il lui dit non mais en fait moi je suis un artiste, j'ai besoin, donne-moi un couplet en fait. Et je pense que le premier rappeur qui lui a donné un couplet, c'était Bostaflex. Mais sinon en général c'était des demandes comme ça de rappeurs qui disent voilà, est-ce que tu veux venir poser venir chanter sur mon truc, etc. Et ça devenait aussi un peu chiant à la limite. Et il s'est dit
ça devient un gimmick, un truc en plus. Pour les artistes c'est frustrant, mais même pour l'auditeur au bout d'un moment c'est dire bon, on sait que le refrain va arriver.
Ça faisait vraiment genre c'est le morceau radio, il nous faut un refrain chanté, tu vois.
Et je pense que une des premières chanteuses qui ont pu inverser un peu la tendance, c'est Karine par exemple. sur Ma cité va craquer, sur la bande son, quand elle est avec Shuriken, sur Savoir dire non par exemple, ou Destinée aussi, qui est sur le même, sur Ma cité va craquer aussi, qui elle aussi a un titre où c'est elle la lead. Donc ça commence aussi avec ces artistes-là, mais je pense que Karine, elle est capable de le faire parce qu'elle a déjà une carrière, elle existe déjà. Avant, elle n'existe pas parce qu'elle a d'abord posé sur un refrain. Elle existe.
Personnage
parce
important, Karine.
Karine, elle est super importante dans l'R&B français. Je pense que c'est une des artistes les plus importantes.
La pionnière. Ouais.
Voilà.
Un petit extrait juste du Tu me plais, Dave Bond.
Tu me plais, mais t'exagères.
Bah c'est parce que là, c'est un exemple de tube qui a marché de ouf.
Et a fait Oxmo Puccino avec Karine. Stop ta mytho.
Ouais, mais ce qui est. Ça apparaît sur la BO de Taxi, mine de rien. Mais au-delà du RB, même pour le rap de manière générale. Alors, il y a les trucs de puriste, rap attitude, etc. Mmh. Mais je pense que. Et puis après, la BO de la BO de Taxi 1, pour la popularisation du rap, ça a été quelque chose, je pense aussi.
Ah oui.
Allez, c'est parti.
Oh, l'illustration, c'est Marion Cotillard et Samina Seri. J'ai envie de me flinguer.
Ouais, ça va. Dis-moi, tu viens faire un petit tour en voiture ou quoi? Des trucs à faire, j'ai vu quand même des trucs à faire. Allez, viens, arrête de marcher à pied, viens tester mes nouveaux sièges. Allez, je connais du monde ici, tu peux faire remarquer ou pas. Je sais, allez, monte dans ma caisse, bébé, après on voit.
Ah là là, c'est toute mon adolescence, ça.
Franchement, bien produit, hein.
Oui.
Bien produit.
Ouais. Bon là, je sais pas si c'est la version YouTube, mais c'est très dans les graves et tout, assez étouffé. C'est
étouffé, mais je pense que le produit n'est pas ouf.
CD,
Mais on a entendu quand même le petit sample de Booba qui était incarcéré à l'époque et qui a été samplé par tout le rap français, il faut le rappeler. Hein. Pareil que tu roules en gros merco. Franchement, ça sonnait bien. Vraiment, nickel. L'introduction... Nul. Je sais pas s'ils les assumeraient encore. Je sais même pas pourquoi ils ont fait ces intros en fait, parce que même à l'époque c'était pas ouf. Mais alors aujourd'hui c'est ridicule, vraiment. Ouf.
On passe aux années 2000, les amis.
Allez.
On va essayer de faire un tout petit peu plus court parce qu'après j'aimerais bien qu'on parle aussi un petit peu de Zouk et puis surtout d'aujourd'hui. Qu'est-ce que on parle plus forcément de R&B contemporain, mais en fait ça est sémé dans toute la musique populaire, dite urbaine parfois, il faudra absolument qu'on en parle. Mais d'abord, les années 2000, on a compris 90 en France, hein, les pionniers, des trucs qui commencent à être importants, le label Sensitive évidemment, la compilation, les featuring, le tube d'Ophélie Winter, Karine qui s'installe vraiment avec une vraie carrière.
Et puis il y a une période aussi, je pense, qui est hyper importante entre 97 et 2003, où il commence à y avoir des artistes qui font des albums... important, donc le premier album de Karine il est assez important, celui de Vibe, Confession c'est en 99, on a le premier album de Matt qui sort en 99, mais plutôt on va plutôt parler de R&B de rue qui est 2001.
Donc c'est Matt Houston qui à l'époque s'appelle Matt, c'est ça?
Oui, il s'appelle Matt, exactement, il s'appelle Matt, je pense pour ses trois premiers albums et il devient Matt Houston au bout du quatrième.
Il y a un groupe qu'on avait évoqué hors antenne. Qui était
Aphrodisiaque.
L'espoir du R&B aussi.
Aphrodisiaque, qui sort un album. 80, premier titre, c'est 97, et premier album, c'est 2001.
Trouve-moi un 2001, job.
Tu veux qu'on mette un. Ça te ferait plaisir.
Trouve-moi un job d'Aphrodisiaque.
Pour ouvrir la partie année 2000.
Excusez-moi, mais.
Mais on est en 2000 pour Trouve-moi un job ?
On est en juste 2001. On est en 97. Ouais. Trouve-moi un job, c'est 97.
Bon, allez, on va dire que ça entre.
C'est de la guitare.
C'est de la guitare, ça me fait plaisir. Oh, c'est Black Street de ouf, c'est No Digity à fond là.
Bah ouais, mais avant No Digity.
Quand les mecs sont durs en voiture de sport défilée, c'est pas le ghetto, c'est juste le site de la cité où le business est la seule solution sollicite. Désormais que j'ai grandi, je sais que je m'en suis, mais toujours est-il qu'il me faut de l'argent.
Et là, on a le côté rue là.
Je vois des lascars,
exactement.
Avec de grosses cases, avec de grosses cases. Je vois des anciens.
C'est stylé ça.
C'est très bien, j'aime bien. C'est très bien. Ils n'ont pas transformé l'essai, c'est dommage.
Justement, est-ce que pour ouvrir les années 2000, restons sur cette thématique de cette tension permanente entre dans le R&B on est plus sensible, etc. Puis en même temps, il y a la culture hip-hop qui est là quand même, le côté plus rue, etc. On évoque depuis tout à l'heure Matt Houston, R&B de rue, parce que ça symbolise complètement cette tension et il l'assume et il en parle dans un morceau. On est en quelle année quand ça sort R&B de rue ?
On est en 2001.
En 2001,
2001.
Et on s'écoute un extrait, tu nous en parles un petit peu après ?
Oui.
Oui, c'est pas mal d'écouter de la musique dans une émission musicale.
Oui, bien sûr. Oui.
Ou tu voulais dire des trucs peut-être.
Non, on peut écouter un extrait et puis on en parle.
Ah ouais, t'aimes pas?
Oh non.
Pour l'instant, ça me choque pas. J'avance un tout petit peu. Bon, il l'a dit lui-même, hein.
Ouais, il a peur que la rue le délaisse. Mm. 100% copie Cisco, en fait. C'est pour ça que, tu vois, Cisco, Drouil, tous ces trucs-là, quoi. Chemise dragon, lunettes à verre bleu, tu vois. Enfin,
Après, c'était pas la même esthétique. C'était pas du tout la même esthétique.
Oui, mais enfin, au niveau du son.
Oui, au niveau du son, oui.
Wow,
c'est... On sent qu'il y a une influence de Tong Song, de,
ouais,
de Cisco. Tong Song,
totalement Tong Song. Ouais.
Mais après, je trouve qu'il arrive quand même à avoir.
Ouais.
Il a, son style,
il a fait son truc, bien sûr.
A trouvé cette sorte de, on va dire, entre deux, où il arrive donc justement à créer son son. Enfin, Matt Houston, quand même, il a, je trouve qu'il a un R&B qui est très minimaliste, on va dire. Enfin, il n'y a pas énormément de c'est pas arrangement gros synthé, etc. Mais c'est très efficace et c'est maîtrisé.
Et puis ça a cartonné en plus là-dessus.
Ah, c'était un tube absolu.
Ça a cartonné, ouais.
Est-ce que justement, il est au-delà d'incarner cette tension dont on parle depuis tout à l'heure, est-ce que d'un point de vue commercial aussi, ça marque quelque chose, l'ascension entre guillemets de Matt Houston?
Alors, je pense que oui, c'est parce que en soi, il a sorti son premier album en 99, éponyme Matt, qui est beaucoup moins connu que R&B de rue. Mm-hmm. Donc R&B de rue sort, c'est la consécration. Je pense que c'est l'album que tout le monde pourrait citer pour citer un album de R&B français. Je pense que personne ne citerait pas Matt Houston. Matt, je ne sais pas si on dit Matt Houston, Matt, voilà. Mais je pense qu'en tout cas pour le R&B, au moment où il devient beaucoup plus... ou en tout cas, ça commence à, pour les maisons de disques, ça commence à faire sens de faire du R&B français, c'est les années 90 quand même. C'est la fin des années 90, forcément avec Ophélie Winter, et après avec quelqu'un comme L'Âme. Avec les premières reprises de tubes de variétés françaises, de chansons françaises qui sont reprises en version R&B.
Alors là, on est en quelle année, L'Âme? Elle commence à émerger à partir de quand?
L'Âme, c'est 98.
Okay.
Quand elle reprend Michel Berger et qu'elle fait cette version R&B. Voilà, c'est ça, exactement. Où on commence à être justement dans ce que moi je définis comme R&B variété. Et en 97 aussi, il y a Mel Groove qui fait Patois de Jean-Jacques Goldman, qui est aussi repris en version R&B. Et là, on commence à avoir ça commence à faire des chiffres, on va dire.
Donc là, en fait, on a une espèce de
réadaptation.
De réadaptation, on pourrait dire d'ailleurs. Enfin, c'est réabsorbé en tout cas par l'industrie avec un aspect beaucoup plus variété. C'est ce
exactement.
Que t'es en train de dire.
Donc ça
on
commence.
On va aller chercher les gens, quoi.
C'est... Voilà, c'est ça.
Zone de confort, en fait.
Et que je pense que un des premiers albums R&B légitime, c'est donc du coup qui arrive à avoir en tout cas ce succès commercial, ce grand succès commercial, parce que Vibe aussi, son album fonctionne en soi, c'est Matt Houston en fait, c'est un album qui est R&B où il essaye pas de faire de variété, il est très dans la tendance du moment, il y a des thèmes, il y a plein de choses. Et ça fonctionne. Ouais.
Voilà, parce qu'on vient d'écouter un extrait de Matt Houston, on voit à quoi ça ressemblait. Tu disais en parallèle, il y avait la proposition de L'Âme, beaucoup plus variété. Alors là, on revient tout petit peu en arrière.
Et puis il y avait Wallen aussi en 2001.
Et Wallen en 2001. Ah, mais ça, on peut écouter aussi Wallen. Un extrait de L'Âme, là, tu disais la reprise façon R&B.
Je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux.
Ça commence un peu, elle chante lentement. Alors là, je vais être honnête, je trouve que ça n'a aucun intérêt.
Alors, c'est très gimmicky, comme ils disent aux États-Unis.
Ouais.
On sent quand même qu'il y a une intention où on sait que le R&B s'installe en France. On essaye de trouver une version du R&B qui puisse être.
C'est vrai qu'à la limite, le geste est intéressant en tant que tel. Mais le résultat.
C'est 100%
mais elle vend 800 000 exemplaires.
Ouais.
Voilà, c'est à ce moment-là, justement, qu'on comprend que le R&B qui fonctionne. Mmh. pour les maisons de disques, parce que bien évidemment les titres, je veux dire l'album de Tribal Jam, il sort en maison de disques, enfin il y a tous ces albums en tout cas R&B qui sortent, mais ils n'ont absolument pas la même popularité que l'âme. Et donc à partir de ce moment là on sait en fait que c'est ce R&B là spécifique qui est quand même assez dépouillé de
c'est très industriel en fait.
Complètement. C'est dépouillé de tous ces éléments essentiels. Ouais. C'est pas très bien chanté. Il n'y a pas vraiment de production vocale. Il y a beaucoup de gimmicks. On va mettre un rappeur ici parce que bah, le R&B, il y a un peu de rappeur. Donc, du coup, on sait en tout cas qu'on essaye, on veut dire au public que voilà, c'est une musique entre guillemets qui est liée au R&B. Mais en réalité, quand on écoute du R&B, on sait très bien que c'est pas réellement.
Et ça représente 100% ce que je disais des majors qui dévoient la musique, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment en fait ce qui permettent de mettre devant les yeux des gens qui connaissent pas, c'est un mauvais produit en fait. C'est nul vraiment. Et le problème, c'est que bah, la porte, elle a été ouverte avec des trucs comme ça, et alors là, ça va s'engouffrer.
Après, il va y avoir des bons produits aussi.
Là, bah, il y en aura, bien sûr.
Ça reste des produits,
bien sûr. Mais les trucs qui vont cartonner, ça sera toujours des machins un peu milliers. Enfin. Un peu, pas mièvre, mais tu vois, qui. Un
ouais,
peu
parce que tiède, attention, mièvre, c'est justement un des reproches qu'on fait au R&B.
Non,
depuis
pas
le début,
mièvre, là.
Non, je pense que c'est tiède.
Plutôt tiède.
Tiède, c'est le terme.
Tiède, c'est-à-dire qu'ils prennent pas trop de risques, et puis qu'ils laissent les gens dans une zone de confort en reprenant un morceau que tout le monde connaît, tu vois. Et on arrive à M. Pokora en 2023, tu vois. C'est exactement
il est d'ailleurs dans ta discographie, tu l'intègres aussi un peu dans cette grande histoire.
Oui, parce que je pense que c'est important.
C'est ce qu'il faisait, bien sûr.
C'est ce qui sort dans les années 2000, en plus en 2004, je pense que Matt Pokora, quand même, il est...
À l'époque, c'était Matt Pokora. Et il paraît que d'ailleurs, c'est une histoire entre
Matt Houston et Matt Pokora.
Ça se ressemblait trop, donc il a dû passer à M. Pokora
pour
Matt Pokora.
Il y a eu un procès.
Ouais. À la demande, effectivement, de Matt Houston qui trouvait que.
Oui, c'était trop proche.
Mais oui, M. Pokora, indéniable, bien sûr.
Justement, un petit, de manière brève, années 2000, quelques grands noms, quelques trucs marquants sur cette décennie-là.
Alors, je pense que les années 2000, ce qui est assez évident, c'est qu'on arrive sur des profils d'artistes qui ne sont plus les mêmes profils que les années 90, parce que la télévision... notamment M6 arrive. On n'a même pas parlé de Poetic Lover, mais Poetic Lover en 97, c'est quand même assez c'est essentiel. Parce qu'on parle, oui, de succès commercial, il y a quand même Poetic Lover après.
Mais Poetic Lover, c'était Graine de Star déjà ?
Oui, c'est Graine de Star.
Ouais. Ah, ça apparaît à travers une émission ?
Ouais.
Ouais.
Ah, oui. Je savais pas. Ça.
Ouais, il gagne en fait.
Tout comme Leslie, il me semble aussi.
Leslie et Willie Danze.
C'est une espèce de télécrochet, de concours télévisuel où ça fait émerger des
exactement.
Artistes.
Okay. Exactement. Et dans les années 2000, on se retrouve avec plein d'artistes qui ont plutôt ce profil-là, qui arrivent par la télévision et donc forcément qui arrivent. Ils sont déjà connus par le grand public. C'est pas des artistes qui ont commencé en MJC, en banlieue parisienne. Ouais. C'est des artistes qui sont déjà visibles à la télévision. On attend juste qu'ils sortent leur titre. Nadia aussi a commencé sur Graine de Star.
C'est fou en fait.
Ouais. Donc
beaucoup de R&B français finalement, c'est M6 directement. Quoi.
C'est dans le R&B aussi Nadia.
C'est considéré comme R&B parce qu'à un moment donné, même aux Victoires de la musique, elle est considérée à un moment comme R&B. Elle gagne. Mais c'est ça tout le problème. C'est qu'on arrive encore à ce moment où...
Tu parlais avec l'âme, c'est variété, R&B, on sait plus trop, quoi, c'est ça.
Et ce sont les artistes qui font ce R&B qui est un peu aseptisé, qui sont ensuite récompensés. Donc il y a quelque chose de très contradictoire, où on dit oui, le R&B, c'est pas très bien, c'est pas très bien produit, etc. Mais en même temps, il y a des artistes qui font du super R&B, mais qui sont pas ceux
pas
qui
mis
sont...
En lumière,
c'est pas ceux qui passent à la télévision, c'est pas ceux qui sont invités sur tous les plateaux télé ou à la radio, etc. Donc,
il y a des trucs, on va pas se réécouter tous les tubes de Nadia, de l'âme, etc. Mais les trucs qui trouvent grâce à tes yeux, à l'inverse, dans les années 2000...
Dans les années 2000, je pense que Leslie faisait du bon R&B. Ouais, elle était produite par Corps et Scalp, en plus. Donc Leslie, c'était du super R&B.
T'as un morceau en tête en particulier qu'on peut écouter
Je pense qu'on peut écouter...
Avec Hamza, du coup.
Avec Amine. Ça brille, hein, moi je suis chaud, ça me va.
Non, je dirais pas celui-là. Non. Je dirais peut-être Pardonner, qui est un de ses premiers titres.
Il y a Et J'attends. J'attends.
Oui, il y a Et J'attends qui est pas mal. Et d'ailleurs, sur le refrain, c'est Karine.
Ah ouais ?
Oui.
Ah bah voilà.
On peut écouter Et J'attends.
Ah, c'est Et J'attends ?
Et J'attends.
Ouais, Et J'attends. Qui est un peu plus tard. C'est pas le début des années 2000, mais c'est un superbe titre.
Ah, alors attends, là, je suis pas sûr que ce soit le bon, parce que c'est Génération R&B, j'ai peur que ce soit pas.
Va pas sur Spotify,
c'est terrible.
En fait, c'est un autre problème. C'est M6 Interaction pour tout. tous les artistes qui sont sur MCC Interaction, la musique n'est pas disponible sur, sur les plateformes. Willy Denze, c'est un des rares artistes à avoir s'être battu pour que sa musique soit disponible sur Spotify. Et je pense que c'est même récent, c'est sur les deux dernières ou les trois dernières années. Mais la musique de Leslie n'est pas sur les, sur les plateformes.
Pourquoi MCC Interaction?
Ils ont fermé Interaction, ils ont fermé, et après il faut aller chercher ses droits, il faut aller
avec MC Solar et sa disco, qui est arrivé que très tardivement.
Donc il y a un gros patrimoine musical du R&B français qui n'est pas disponible sur les plateformes. Beaucoup de musique des années 90 qu'on trouve essentiellement sur YouTube et pas sur Spotify ou que ce soit.
Oui, pas de problème ça.
Tu dis d'ailleurs, pardon, à la fin de ton livre que tu parles même de YouTube. Je crois que tu as trouvé beaucoup de choses sur YouTube. Oui. Et tu remercies surtout les gens qui tenaient des Skyblogs.
Oui.
Parce que c'est une source assez importante.
C'est vrai qu'on on rigole souvent, on dit oui, les Skyblogs, etc. Mais moi, je remercie les personnes qui n'ont jamais fermé leur Skyblog. Parce
les
que
archivistes,
je sais pas.
En fait.
C'est, complètement. C'est eux, en fait, qui étaient super fans d'une artiste et qui allaient chercher toutes les interviews et qui les postaient sur leur Skyblog.
Ouais,
et sans ces sources-là, je pense qu'il y a beaucoup, il y aurait eu beaucoup, peut-être beaucoup de trous dans le livre. Donc merci à ces personnes qui ont oublié leur Skyblog ouvert toujours aujourd'hui.
Ça passe très très bien.
C'est très bien produit, c'est bien chanté. C'est effectivement, t'avais raison. C'est un truc qui se démarque. Très à l'américaine d'ailleurs, je trouve, de cette époque-là aussi.
Après, je pense que c'est un peu différent de ce qui se fait au même moment. Je pense
qu'en
2007, on arrive.
Retard,
Je sais pas si c'est en retard. Je pense que c'est dans sa propre ligue, parce que à la même période, je pense qu'aux États-Unis, on est plutôt dans la période où c'est la domination de Neo qui écrit beaucoup pour beaucoup d'artistes. Donc il y a beaucoup de piano dans le R&B américain, de clavier, de mélodies faites comme ça au clavier ou au piano. Et c'est différent. C'est très différent de ce que Leslie fait à ce moment-là. Ouais.
T'as évoqué aussi Willy Denze, on pourrait parler de Tragédie aussi. Ça, c'est des groupes commerciaux. Est-ce qu'il faut les mettre ensemble? D'ailleurs, moi, je connais pas assez. Mais est-ce qu'il faut les mettre tout ça ensemble? Ça reste des représentants du R&B?
Moi, je mettrais Tragédie dans du R&B variété.
Ok.
Du R&B variété, donc où on est aussi encore dans cette sorte de titre qui est censé être R&B. Donc, on rappelle des éléments du R&B. Voilà, ces deux mecs. Ils sont pas blancs. Il y a un qui est malgache. Je pense que les deux même sont malgaches. Il y a un qui est, je sais pas, asiatique et l'autre
non,
malgache.
Les deux sont malgaches.
Les deux sont malgaches. Les deux sont malgaches. Et ils font cette musique. Ils sont habillés comme des.
Ils ont des douragues.
Exactement. Ils ont des douragues. Ils sont en XXL avec des bagues, etc.
Ouais.
Mais la musique elle-même, c'est quelque chose de complètement dépouillé aussi. De très simpliste, de très pop aussi, parce qu'on est, on fait EO et on le répète 15 000 fois pour que le public s'en rappelle. Et donc forcément, on est dans un R&B qui fonctionne aussi.
Ça marche, c'est ça le
cas. Ça cartonne, Tragédie. Et je pense que les années 2000, c'est un peu ce moment un peu bizarre où les pionniers du R&B français, ils trouvent plus leur place. Ouais. Parce que c'est pas ce R&B qu'ils font.
Parce que, pour en citer d'autres, il y a aussi Amel Bent, Kenza Farah.
Amel Bent, M6.
Kenza Samet, Chaim, Sheriff Aluna, Singila, alors qu'il n'y a pas à mettre peut-être dans la même.
Ouais,
mais
2003.
Tout ça, c'est des gens qui émergent vraiment dans les années 2000, qui ont un certain succès, tous. Peut-être d'ailleurs, tu vas me dire, parmi ceux que j'ai cités, ils rentreraient dans cette catégorie, mais j'ai envie de te dire, qu'en est-il de. On a bien compris l'aspect très commercial, variété pop. Qu'en est-il des historiques ou des gens qui essaient de proposer un truc peut-être plus en phase avec les racines, entre guillemets?
Je pense que, par exemple, le R&B de Singila, il est intéressant, même s'il peut y avoir aussi il y a des influences, sur ma conscience par exemple, on sent qu'il y a quand même de la variété, il y a des sections de cordes, ce qui est très rare dans le R&B en tout cas. Il y a des choses en tout cas qui, on sait que c'est très variété, mais Singila, c'est un chanteur de R&B et c'est quelqu'un qui a cette formation-là et qui chante, il y a une production vocale et puis il a une vraie écriture. Quoi qu'on en pense de son écriture.
On en parlait en antenne.
On peut en parler de ce qu'il disait spécifiquement. Ouais. Mais il a une écriture, en tout cas, qui rappelle un peu R. Kelly, qui rappelle un peu des références américaines, comme ça. Et en même temps, il propose aussi un R&B qui, pour moi, est à la base de ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans la pop urbaine, par exemple. Dans ce pop urbaine, entre gros guillemets, bien évidemment. Ce R&B où on commence, il y a du Lingala sur l'album de Singila, et on parle de 2003 quand même. C'est après.
Tu veux dire que
c'est après Bissona Bisso, bien évidemment.
Ouais, évidemment.
Les influences afro-caribéennes qu'on assume complètement aujourd'hui, à cette époque, c'est plus difficile à défendre.
Je sais pas si c'est plus difficile à défendre parce que l'album de Singila, il faut encore être dans ce côté commercial, il fonctionne en soi.
T'as cité Bissona Bisso, effectivement.
Et je pense que c'est après Bissona Bisso, mais lui, son R&B, en tout cas, c'est un R&B qui embrasse les influences africaines, où parfois on peut entendre qu'il y a des influences de la rumba, des guitares, en fait, qui sont très aiguës, qui viennent aussi, je pense, de ces influences de la rumba congolaise, parce qu'il est congolais et centrafricain d'origine. Donc je pense qu'en tout cas en 2003 il y a Singila qui fait ce R&B qui est assez particulier et qui annonce aussi les prémices de ce qui se passe 20 ans plus tard aujourd'hui.
Intéressant, t'as un morceau ?
Je pense qu'on peut écouter, je sais pas si c'est le meilleur. En fait le problème avec Singila c'est il y a des titres qui sont intéressants pour la production mais ce qu'il raconte c'est pas possible. C'est pas possible.
Okay.
Je pense qu'on peut peut-être écouter, ce que j'aime bien c'est la guitare de Je Doute, il y a un titre qui s'appelle Je Doute.
Absolument, Singila, Je Doute.
Oui.
Ouais, on s'écoute
on
ça.
On peut écouter ça. Allez.
Tous mes amis me disent du mal de toi, bébé. Et quand j'entends certaines choses, ça me fait chier. Tout ce que j'attends de toi, ce sont des preuves de sincérité. De sincérité au fond de moi, quelque chose dit que tu es pour mon et moi.
En vrai, il y a un truc, hein.
Et en fait, pour moi, il y a une cadence, pour moi, la façon dont il pose, qui me rappelle beaucoup des titres de rumba congolaise, en fait. C'est vraiment une... Et à l'époque, il travaillait avec son frère qui voulait créer ce type de R&B qui aurait été très proche des influences africaines. Mmh. Donc on a déjà en tout cas cette intention assez claire dans sa musique. Et je trouve que donc ce titre-là aussi, on peut l'entendre un peu plus facilement. Mais pour répondre à ta question, je pense que donc du coup, dans les artistes qui ne correspondent pas à la norme du moment, il y a quelqu'un comme Singila. Mmh. Il y a China Moses qui fait un superbe album en 2004. Il y a même Karim Zriggins qui produit sur cet album-là. Elle a des producteurs américains qui travaillent. Ouais. Super proposition aussi.
C'était un peu trop taffé du coup pour le public français en fait.
Je pense parce que à ce moment-là, si ce qu'on te donne c'est du R&B tiède comme tu disais un peu tout à l'heure, c'est compliqué d'avoir après du China Moses ou même quelqu'un comme Saïd qui fait un album en 2006 qui s'appelle The Swing et The Soul qui est très soul aussi. Donc il y a des artistes qui continuent à sortir des choses en fait.
Et parce que tu parles de Shuriken, je pense à Wallen forcément.
Oui, Wallen, bien évidemment.
Et on n'en a pas parlé tant que ça. Ouais. Plus années 2000 donc Wallen.
Oui, Wallen c'est années 2000 parce que son premier album c'est 2001 et c'est aussi une artiste qui elle vient aussi avec un R&B entre guillemets de rue parce que c'est assez clair dans sa musique qu'elle veut être très proche. Elle veut être très proche du hip-hop. C'est important
pour
elle.
Elle posait des cœurs sur. C'est avec qui qu'elle tournait Wallen?
Avec NAP.
NAP.
Ouais, elle posait des chœurs et après elle était produite
par. C'est d'ailleurs la compagne de
Abdelmalik. Ouais. Ouais. Et elle était produite, c'est la première chanteuse R&B produite par Sully B. Wax, donc forcément.
Oui, voilà, c'est ça. Ok.
C'est en tout cas la proximité au hip-hop est assumée, est revendiquée et c'est assez clair de son.
On met un extrait du featuring avec Shuriken.
On fait.
Allez, celle qui a dit non.
Parce qu'il y a trop de choses avec lesquelles je pourrais jamais être en osmose. Je voulais te dire merci Malik. Des textes trop faibles bien qui je suis se mêlent de la sollicité au studio. Mais ce qu'est là, monsieur, c'est ce que je vaux. J'ai rejoint le front de la rue. Non, moi, je suis pas du crew des vendures. Quand ils m'appellent à leur bureau, j'y vais. Ils veulent un truc coco pour le succès. Ils proposent de collaborer. Mais j'ai choisi le camp des tranchées.
Ceux qui disent oui, ceux qui disent non. Mais ceux qui disent oui, ont déserté le front. Il y a ceux qui disent oui.
Je me suis appuyé à quel moment.
J'ai de rien avec du vide autour, avec mes passos, serval, kamikaze.
Bon, on a compris le principe. Et
bah justement, elle parle de tout ce qu'on vient de dire.
Elle parle de tout ce qu'on vient de dire. Ouais. Elle pose trop bien. Mm. Je trouve que, tu sais, au niveau rythmique, etc., il y a, ouais, y a tu vois, un truc précis.
Ouais, moi, je trouve qu'il y a encore des.
Ah ouais?
Ouais, il y a des trucs d'accent chewing-gum pour caler le truc.
Moi, ouais, c'est un peu maniéré, mais je la trouve assez chirurgicale, globalement.
Non, mais, et puis, le texte est bien.
Oui.
Pour le coup, ça dénonce complètement l'industrie et toutes ces choses-là. Mais
c'est un peu du R&B conscient.
Ouais.
C'est comme du R&B conscient. Mais après, je pense que ce qui est assez intéressant avec Wallen, c'est sa perception aussi dans les médias. C'est que forcément, on considère, à partir des années 2000, ce qui est assez intéressant quand même, c'est que le R&B commence à être construit comme un genre féminin. On considère que c'est un genre où il y a principalement des artistes féminines et donc forcément, qui sont écoutées par des filles, pas par des femmes et des filles qui n'ont pas de goût, en général. Donc, il commence à être lié, en tout cas, à un public de classe populaire, féminin, et qui ne serait pas, on va dire, très instruit, en tout cas, qui comprendrait, qui n'écouterait pas de la bonne musique, en soi. Et donc, Wallen, il y a, parce que forcément, j'ai fait des recherches dans la perception des médias, des interviews, etc. À la fois, elle va se retrouver dans des médias où on va lui dire, voilà, vous avez de vrais textes. Contrairement au reste de la scène, vous dites des choses assez intéressantes. Et en même temps, ensuite, dans des médias, on dit, ah, mais c'est les petites filles qui vous écoutent. Et donc, il y avait ce truc un peu... Ouais. Un peu paradoxal où à la fois on la félicite parce qu'elle a des textes, parce que les textes, c'est un peu ça, c'était position avec le R&B français. Ouais. On dit que le R&B français n'a pas de texte et que quand tu as des textes, tu te rapproches plus de la chanson française, ouais. En tout cas des standards français, mais qu'en même temps, ta musique, elle n'est pas assez bien pour être écoutée par des personnes de goût.
Des adultes, ouais.
Voilà, c'est ça, on est plutôt des adolescentes.
Par rapport au goût, justement, par rapport à la dimension sociale, comment c'est perçu aussi, etc. Faisons un petit break avant de terminer avec la partie sur aujourd'hui. Ce petit break, parce que c'est tout un chapitre dans ton livre, ce destin croisé entre Zouk et R&B. Pourquoi tu les mets côte à côte? Pourquoi tu y vois du commun? Pour quelle raison?
Alors, je voulais parler de Zouk. Déjà parce que c'est une influence qui existe. Je pense que je suis d'abord partie de ce qui peut-être se fait aujourd'hui où le zouk est très présent dans la musique, même dans le R&B d'aujourd'hui, il y a beaucoup de zouk dans les artistes qui se disent...
Le zouk d'ailleurs, juste peut-être pour redéfinir très rapidement d'où ça provient, qui sont...
Genre musical antillais, je dis antillais parce que c'était une intention des membres de Kassav. De créer une musique qui serait à la fois guadeloupéenne, martiniquaise, avec des influences à la fois du belè, de la biguine, du goka, qui sont des musiques traditionnelles antillaises, et chanter en créole, parce que c'était important de ne pas avoir une musique chantée en français, qui puisse être proche en tout cas de la créolité, de l'identité antillaise, et en même temps une musique qui soit dans les standards mondiaux, qui puissent être exportables en tout cas, pas forcément en France hexagonale, mais ça on va en parler parce que ça a été compliqué pour le zouk, c'est toujours compliqué aujourd'hui pour les artistes de zouk d'être considérés par le grand public français hexagonal, mais en tout cas exportables à l'extérieur.
On peut l'intégrer à une grande époque de la world music entre guillemets ouais.
Exactement, je pense, ouais. Ouais, entre gros guillemets comme tu dis, la world music et forcément qui s'exporte facilement en Afrique, par exemple en Afrique on avait l'afrozouk qui étaient des artistes africains qui chantaient en leur langue locale, sur du zouk par exemple. Le zouk en tout cas c'est cette musique spécifiquement antillaise, créée à la fin des années 70 par les membres du groupe Kassav, pour avoir cette musique qui puisse refléter l'identité antillaise. Et ensuite donc forcément je pense les premiers représentants du zouk c'est Kassav. Et qui devient la musique qui permet à beaucoup de musiciens guadeloupéens et martiniquais de commencer à exister dans les années 80 parce qu'elle devient très populaire et elle devient investie par beaucoup de musiciens. Et donc, dans tous ces musiciens, il y a ce monsieur qui s'appelle Jean-Michel Rotin, qui naît donc en Guadeloupe dans les années 70.
Soutenu par Jacob Desvarieux et Cassav globalement.
Après, oui, bien ouais, après. Mais du coup, qui lui, en fait, a des influences où à la fois il écoute la musique locale, il écoute du compas, il écoute plein de choses en tout cas qui se font dans l'espace caribéen, mais qui écoute aussi beaucoup de musique afro-américaine. Qui écoute du R&B, du funk, beaucoup de Michael Jackson, tout ce qui se fait en tout cas dans l'espace américain pour sortir en fait de la Caraïbe. Et donc lui, à ce moment-là, quand il se lance, il commence dans le zouk parce que c'est la musique qui est investie par les musiciens guadeloupéens. Mais ce que lui recherche, c'est cette nuance parce qu'il a toujours écouté du zouk, certes, mais il est aussi très proche du R&B. Et donc dès le départ, pour lui, il cherchait un moyen de pouvoir faire une musique qui soit à la fois proche de ses influences noires américaines et de ses influences caribéennes. Et c'est un peu comme ça que naît le Zouk R&B, avec un titre qui est peut-être le premier titre qu'on peut considérer comme du Zouk R&B, qui s'appelle Léo Love. C'est un titre de Énergie, qui est le groupe que Jean-Michel Rotin intègre.
Jean-Michel Rotin fait une Énergie, Léo Love. Allez, c'est parti. On est en quelle année, pardon?
On est en 80... 11.
Complètement, effectivement, le mélange des genres. Bon, avec une instrumentation et une production globalement qui ont vieilli, on sentait qu'il n'y avait pas énormément de moyens. Mais par contre, effectivement, il y a cette volonté, dans le chant notamment, R&B clair. Quoi.
Dans le chant R&B clair, et justement avoir cette sorte de musique fusion où on a à la fois des rythmiques qui sont zouk, parce que je pense qu'une des bases rythmiques du zouk, c'est le tibois, ou plutôt le rimshot, en fait, qui là n'est pas vraiment présent, mais qui est repris dans la cadence de Jean-Michel Rotin. Donc c'était à la fois avoir cette musique fusion sans forcément avoir les instruments traditionnels du zouk et pouvoir les refaire soit avec la cadence, soit avec d'autres instruments, soit avec des syncopes, enfin plein de choses en tout cas, pour pouvoir avoir cette fusion assez presque, je sais même, et en général quand on en discutant avec ces artistes qui faisaient du zouk R&B, ils disent pas qu'ils font du zouk avec du R&B ou du R&B avec du zouk. Ils disent que c'est vraiment quelque chose au milieu, en fait, et qu'ils veulent pas forcément définir leur musique.
Tu connaissais Das, toi, Jean-Michel Rotin?
Ouais, justement, dans ces époques-là, en fait, cette période-là, où moi, c'était le nom qui me faisait rire. Et en fait, je trouvais ça fou d'avoir un gars qui s'appelle Jean-Michel et qui fasse des sons comme ça, tu vois. Non, mais vraiment, parce que du coup, t'as une ambiance et tout, et Jean-Michel Rotin, tu fais OK. François Dupuis, tu vois. Et c'était ça qui m'avait fait sourire à l'époque quand on était petit, parce que ça, c'est des trucs que mes potes de collège écoutaient à la maison. Tu vois, avec leurs parents et tout, enfin, c'était les Antilles, quoi. Donc, c'était vraiment la musique du pays, tout ça, tu vois. Donc, ouais, on a beaucoup entendu ces trucs-là et beaucoup rigolé aussi.
Et ce destin croisé Zouk R&B, est-ce que c'est avant tout incarné par Jean-Michel Rotin ou est-ce que ça l'a dépassé? Parce que t'es parti un peu, tu nous disais, du constat de la musique d'aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a d'autres prémices de ce mélange qu'on retrouve, c'est vrai, aujourd'hui, hormis Jean-Michel Rotin?
Je pense que il y a beaucoup de mélanges, je pense. Et ça part essentiellement de Jean-Michel Rotin, quand même, qui lui crée sa version du Zouk R&B, qui ensuite évolue parce qu'il est en Guadeloupe quand il fait Léo Love, mais quand il fait son premier album, il est entre Paris et la Guadeloupe. Et quand il fait Solo, son deuxième album Solo, donc sur lequel il invite un artiste comme Kesha, qui est donc rap, Kesha.
Rappeur,
producteur, auteur-compositeur congolais qui a fait à la fois du coupé décalé, du zouk, plein de musique assez essentielle en tout cas dans la musique dans les années 2000 en tout cas. Spécifiquement, qui est donc présent sur l'album de Jean-Michel Rotin, sur son deuxième album, et qui permet à ce moment-là à Jean-Michel Rotin de sortir un peu de son espace caribéen et de rencontrer la scène R&B de l'époque. Donc c'est à ce moment-là qu'il y a cette rencontre entre Zouk R&B et la scène hip-hop et aussi R&B de France hexagonale spécifiquement. Ensuite ça évolue, Kesha aussi fait une version du Zouk R&B. Il y a des artistes comme Nicole's, il y a plus tard dans les années 2000, Warren, Kesha encore, Soumia, etc. Il y a beaucoup d'artistes qui existent et il y a donc à la fois ce Zouk R&B qui part, on va dire, du Zouk et puis un Zouk R&B qui part du R&B où les artistes de R&B spécifiquement commencent à faire des artistes, commencent à faire du Zouk R&B comme Karine sur son album de 2001. Où elle a un titre qui est Zouk, qui est produit par Corey Scalp d'ailleurs. Et donc on commence à avoir en fait cette sorte de mouvement différent où ce sont les artistes R&B qui comprennent dans les années 2000 que le R&B a changé, c'est souvent les pionniers, et qu'il y a peut-être une place pour eux dans le Zouk aussi, ou plutôt dans cette intersection-là.
Est-ce que tu penses qu'il y avait aussi une relation naturelle du fait de la question, on parlait de la représentation de la place de ces musiques au sein de l'industrie, délaissée. Il y avait un truc commun aussi là-dedans, un esprit commun.
Complètement. Moi, je lis le R&B et le Zouk aussi parce que je pense qu'ils ont eu des destins. Enfin, les deux musiques ont eu des destins assez similaires en France. Ce problème d'acceptation, de marginalisation aussi, de devoir se construire un peu dans des circuits qui sortent du mainstream. Aussi des musiques qui parlaient essentiellement, en tout cas spécifiquement le Zouk Love qui parlait d'amour. Le Zouk Love en tout cas c'est une version du Zouk qui est beaucoup plus lente.
Pour moi c'était ça, le Zouk R&B, pour moi j'allais dire mais c'est le Zouk Love en fait.
C'est pas vraiment le Zouk Love.
Ouais, parce le Zouk Love c'est encore trop précis comme...
En fait le Zouk Love c'est juste un autre type de Zouk. Le, okay. Zouk, le Zouk Love, c'est dans le Zouk, il y a le Zouk Béton, le Zouk Chiré, et puis il y a le Zouk Love, et le Zouk Love, c'est beaucoup plus lent, en fait. Mm-hmm. Alors que le Zouk Béton, le Zouk Chiré, c'est plutôt des musiques qui sont peut-être plus inspirées de, à la fois des musiques qui se dansaient dans les Zouks, parce que le Zouk aussi, c'était des fêtes, c'était des célébrations, c'était pas uniquement une danse ou une musique. Et que ensuite, donc le Zouk Béton et le Zouk Chiré, ça pouvait aussi se danser durant les carnavals, ce genre de choses. Alors que le Zouk Love, on est plutôt sur un rythme qui est beaucoup plus lent, qui peut être plus lié peut-être au slow jam dans le R&B, où on parle essentiellement d'amour. Et donc le Zouk Love, c'était pas spécifiquement ce que faisait Jean-Michel Rotin, même si il y a du Zouk Love dans sa musique. Mais il y a des artistes de Zouk Love qui ne font pas de la musique qui ressemble à ce que Jean-Michel Rotin fait. Jean-Michel, il fait du Zouk R&B spécifiquement. Parce que le Zouk R&B, s'il faut le définir esthétiquement, c'est on a à la fois on a cette rythmique qui est Zouk, donc cette base rythmique qui est Zouk, et après on a des accords, des progressions d'accords, des claviers, des synthés qui se calquent plutôt sur ce qui se fait dans le R&B à cette période-là. Okay. Et en même temps, on va enlever tout, par exemple, il y a des sections de cuivre assez présentes dans le Zouk des années 80, mais qui sont pas du tout présentes dans le Zouk R&B, par exemple. Et même dans la rondeur même des productions, où on veut avoir cette sensation du R&B américain. Exactement. Donc voilà, esthétiquement, c'est ça le Zouk R&B. Mais je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Pour justement avancer un peu et parler d'aujourd'hui, en fait, est-ce que on comprend bien qu'il y a aussi ce problème de c'est pas de la culture légitime, c'est mis de côté, ça c'est un truc commun. Aujourd'hui, et passons à notre dernière partie, ce qu'on qualifie souvent de nouvelle pop, tu en parles dans le livre, dans Sensible. Faudra qu'on le montre.
Nouvelle pop, en plus, c'est récent, ça, non? C'est pas les flammes. Je sais pas si on le dit.
on disait avant les flammes. En fait, on disait le rap et la nouvelle pop.
d'accord.
On posait la question, le rap est-il la nouvelle pop, etc. Ça, c'est une question qu'on se pose depuis pas mal d'années déjà maintenant. Mmh. Et en fait, c'est vrai que vraiment labelliser sa nouvelle pop pour une cérémonie, c'est vrai que c'est récemment dans les flammes. Mmh. Mais on parle d'un peu de nouvelle pop, de pop urbaine.
Pop urbaine.
Mais le mot urbain a toujours été un peu problématique.
En position à la pop campagnarde, évidemment.
Écoute, c'est comme la musique classique, la musique savante, le machin. Il y a la savante, pas savante, machin. Il y a ce qui est classique, mais la musique classique, la musique contemporaine, est-ce que c'est pas contemporain ce qu'il y a? Enfin bref, tous ces trucs qui limitent énormément. Après, ça permet au moins de se mettre d'accord quand on veut parler d'un truc précis, c'est vrai. Mais si on peut travailler pour trouver un terme plus approprié, faisons-le. Toujours est-il que cette nouvelle musique teintée de hip-hop, de rap, d'influence afro-caribéenne, etc., la musique mainstream d'aujourd'hui, d'une certaine manière, en tout cas chez les jeunes, c'est du R&B, zouk, il y a un peu tout ça qui se mélange, il y a une filiation claire. Est-ce qu'on est en voie, justement, on parlait de culture légitime, c'est mis de côté, on est en voie d'institutionnalisation, on assume cet héritage, est-ce qu'on peut citer aussi quelques artistes? Là, je te balance un peu tout à la gueule, désolé.
Allons-y.
Parlons de cette période d'aujourd'hui.
Alors, je pense que ce qui est assez évident aujourd'hui, c'est que les artistes qui sont populaires sont des artistes qui font donc cette nouvelle pop qui a l'intersection de plusieurs styles musicaux. Soit le zouk, il y a du compas.
Je pensais aux artistes, pardon, excuse-moi.
Ah, pardon.
Ouais.
Mais du coup, pour les artistes, il y en a beaucoup. Il y a, je peux citer Dadju, je peux citer Frank Lee, je peux citer Aya Nakamura, je peux citer Ronicia, je peux citer.
Pas complètement là-dedans.
Taiki, je pense que c'est R&B. Même s'il a tendance à dire je fais de l'afro-love, il a aussi des influences assez claires de l'afro-beat. Mais Taiki, son dernier EP par exemple, c'est un EP qui est essentiellement R&B. Okay. Donc je pense que je le mettrais plus dans un de ces artistes qui arrivent quand même à citer assez, à revendiquer ses influences assez clairement. Ouais. Voilà. Où les autres artistes, c'est peut-être moins revendiqué de cette façon-là. Mais oui, donc les artistes, voilà, il y en a beaucoup.
Parce qu'il y a un truc passionnant, après on s'écoutera quelques extraits pour retrouver un peu ces trucs R&B, ces trucs zouk, etc. Ça sera intéressant. Dans ton bouquin, tu tiens un propos, si je l'ai bien compris, que je trouve assez intéressant, qui est de dire, paradoxalement, le R&B aujourd'hui est nourri énormément de musique mainstream. C'est assumer la façon dont on interprète en utilisant cet héritage R&B. Et pour autant, on va avoir un peu encore de mal à s'inscrire, à dire vraiment je suis R&B. Il y a comme si, tu vois, il y avait un truc un peu, un entre-deux. C'est pas très classe quand même. Il y a des réminiscences, un reste, tu vois, de le R&B ou le zouk. C'est pas si classe. On va complètement l'intégrer dans notre musique, mais on va labelliser de ça d'une nouvelle manière, etc. Et pas forcément rappeler l'héritage des anciens, le patrimoine derrière.
Assumer.
Voilà. Il est ingéré, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ingéré, digéré. Et c'est une composante de la musique moderne, mais qui est pas forcément revendiquée en tant que telle. C'est ce qu'on voit partout, enfin vraiment, pour le
c'est
coup.
Vrai.
Ouais.
C'est vrai.
Ouais, ouais.
Mais je pense que ça vient aussi de tout ce qui se passe dans le R&B dans les années 2000, où peut-être aussi les personnes qui faisaient du R&B dans les années 90 se reconnaissent plus dans ce qui est fait, vont vers d'autres styles de musique, comme le zouk spécifiquement. Et donc il y a une scène aussi, une sorte de scène souterraine soul qui se crée aussi pendant que le R&B devient très... industrialisé, où sont les mêmes artistes, ouais. Le même type de titres qui sortent, etc. Et donc forcément, il y a aussi peut-être cette sensation qui reste de ce qui se passe dans les années 2000, où le dernier R&B dont on se rappelle, c'est ce R&B-là qui est déjà très aseptisé.
Une question, parce qu'on n'a pas évoqué ce groupe-là, et où est-ce que tu positionnes les Nubians dans...
Les Nubians, pour moi, c'est une tendance, on va dire, R&B soul.
Ouais. Parce que c'était plutôt New Soul, même, dans le...
C'est ça, mais pour moi, sur leur album, il y a aussi des titres qui sont très R&B, comme il y a un titre qui s'appelle Embrasse-moi, qui est très R&B, qui est produit par Mounir Belkir, d'ailleurs, qui, lui, produit aussi sur l'album de China Moses. Donc, en tout cas, c'est une tendance qui est... Elles sont beaucoup plus soul, quand même, que le reste. Même aphrodisiaque, ils peuvent être R&B, mais sur leur album, il y a beaucoup de soul aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est des artistes qui sont à l'intersection. La soul, en vrai, comme on le disait un peu plus tôt, c'est du R&B. Il y a beaucoup de proches du gospel, etc. Ouais. Voilà, c'est ça. Et je pense que donc, à la fois, il y a donc cette sorte de moment où les artistes s'éloignent du R&B et peut-être qu'ils ne sont jamais vraiment rapprochés du R&B. Et quand on dit R&B aujourd'hui, il y a cette connotation. On se dit non mais c'est une musique où il y a plus vraiment de scène.
Musique commerciale des années 2000 puis voilà quoi.
Des années 2000 et puis il y a plus de, c'est une musique très niche. Pense que je cite aussi Taiki dans le livre où par exemple lui dit quand il voulait se lancer dans le R&B, on lui a dit non fais pas ça. Dis pas que tu fais du R&B, il y a pas de scène pour ça en fait.
Il y a pas un retour un peu un minimum parce que j'expliquais que dans ton livre tu trouves qu'il s'est pas complètement assumé et en même temps je vois mais alors là vraiment des artistes de la scène émergente. Mm-hmm. Souvent des femmes, souvent des chanteuses, mm-hmm. qui disent « moi je fais aussi du R&B, etc. Mm-hmm. » Je pense que l'influence de chanteuses comme Georgia Smith, des trucs comme ça, où j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc assumé, un alors, peu R&B.
Non, là on va
ça va être Soul pour toi?
Non, je pense que c'est bon, quand on prend en compte les États-Unis, aux États-Unis, le R&B n'a jamais arrêté d'être fait. Enfin, les artistes ont continué à assumer qu'ils faisaient du R&B. On a tendance à penser que le R&B renaît un peu de ses cendres, même aux États-Unis, à la fin des années 2010 ou peut-être au milieu des années 2010, alors que il y a toujours eu des artistes. Je veux dire, un artiste comme Frank Ocean, c'est 2011, très populaire quand même. Mm-hmm. Miguel, c'est 2011 aussi. Enfin, il y a Lloyd, c'est 2011. Enfin, il y a plein d'artistes R&B qui sont populaires, peut-être moins que ce qui se passe dans les années 2000, mais il y a des artistes qui n'ont jamais arrêté de faire du R&B. Et puis il y a eu toute le moment où SoundCloud prend un peu le relais, et où les artistes qui sont visibles aujourd'hui, quelqu'un comme CZA, qui est super populaire aujourd'hui, elle commence sur SoundCloud en 2013. Donc du coup, aux États-Unis, la question ne se pose pas. Mm-hmm. En revanche, en France, la question se pose, parce que réellement, les artistes aujourd'hui qui vont avoir du R&B dans leur musique ne vont pas revendiquer le R&B. Parce que justement, on va peut-être leur dire non, fais pas ça parce qu'il n'y a pas de marché pour ça.
Ou c'est parce qu'en fait, il a tellement été dévoyé que.
Aussi. En fait, c'est ça. Je pense que ça peut aussi être ça parce que je cite aussi dans le livre Enchantée Julia, par exemple, qui est artiste de R&B.
Tu parles de Bonnie Banane aussi.
Tu parles de Bonnie Banane, etc.
Donc il y a quand même aussi quelques exemples.
Mais Enchantée Julia, par exemple, ce que je cite, c'est qu'on lui demande, on lui dit, mais est-ce que tu fais du R&B? Elle dit, voilà, par exemple, et c'est plus forcément le cas aujourd'hui, mais elle dit, à l'époque, R&B, c'était lié à la scène des années 2000. Mmh. Et moi, ce qui se faisait dans les années 2000, je ne me reconnais pas là-dedans. Mmh. Donc je pense qu'il y a à la fois, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, il y a une scène qui est indépendante, peut-être moins visible que la scène pop urbaine, qui se revendique du R&B.
Okay.
Mais c'est pas forcément les artistes sont les plus visibles.
Très bien.
Voilà. Okay. Donc, mais oui, il y a une scène, il y a une très belle scène indépendante.
On s'écoute juste pour terminer quelques morceaux mainstream d'aujourd'hui avec cette influence R&B.
Je pense qu'on peut peut-être écouter du Enchanté Julia. On peut écouter Vénus, peut-être.
Allez.
J'ai peur que tu me laisses. Parfois la vie nous blesse. Et la douleur ne cesse. J'ai peur que tu me laisses. Cœur brisé sous la veste. C'est tout ce qui me reste. Écoute. Et la douleur ne cesse.
C'est élégant ça,
c'est super joli, cool. Hein. Je comprends qu'elle veuille pas être associée aux artistes.
Je pense que c'est peut-être moins le cas aujourd'hui parce qu'il y a plus d'artistes aussi qui se revendiquent du R&B. Il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Elma qui fait du R&B. Elle a pas d'album, elle a toujours fait de la musique un peu là, ici et là. Il y a une autre artiste aussi, Astron. Artiste aussi indépendante qui a un EP avec La Blue, elle est souvent en tandem avec un producteur. Donc il y a beaucoup d'artistes aujourd'hui, que ce soit des femmes ou même des hommes, qui font du R&B, du superbe R&B aujourd'hui. Il faut juste.
À l'époque de Camille, tout ça, là, des tentatives justement de rendre le truc un peu plus comme ça, là, un peu plus sophistiqué, un peu plus musical aussi, moins. Et en fait, j'ai vu le truc monter et puis c'est retombé tout de suite. Ça a pas été, enfin, il y a pas eu de relais,
Ouais.
Tu vois Camille qui tournait justement avec, il me semble que ça, elle tournait avec avec Sly de The Mike Buddha de du Saiyan. Ils essayaient un peu calquer un peu la scène des Soulquarians, l'autre côté de l'Atlantique, ou la New Soul, les trucs un peu
après, il y a eu Monsieur Nov aussi. À la fin
on n'a pas cité Monsieur Nov.
En soi, ouais. Ouais, j'ai failli oublier.
Très R&B en l'occurrence.
Très important de le citer, parce que je pense qu'à la fin des années 2000, c'est quand même un des artistes qui faisait du R&B un peu, pas hors sol, complètement indépendamment de ce qui se faisait au même moment dans le mainstream, un R&B très soul en tout cas.
Mais parce que j'ai envie de dire, est-ce que peut-être que je me plante, peut-être que c'est des esthétiques radicalement différentes, mais est-ce que le truc un peu stylé d'aujourd'hui qui en fait est R&B, c'est de parler de néo soul? Parce que ça, c'est un truc en l'occurrence qui est à la mode chez les musiciens. De faire du néo-soul, de faire des guitares, tu fais un peu de néo-soul, tu trouves des tutoriels, jouer des accords néo-soul, etc. Mais en fait, c'est des trucs assez R&B, mine de rien, tu vois.
Je pense que ce terme, il est galvaudé. Enfin, déjà à l'époque, c'est pas un terme, et ça, c'est encore un autre débat, on va digresser un tout petit peu. Mais néo-soul, c'est pas un terme qui c'est un terme marketing en soi.
C'est pour, en gros, c'est pour désigner D'Angelo.
C'était un terme qu'il fallait trouver pour définir la musique d'Eric Abadou et de D'Angelo et de Maxwell quand ils arrivent au milieu des années 90. Sauf que quand on pose la question aux artistes aujourd'hui, que ce soit D'Angelo ou Eric Abadou, ils te diront je fais pas de néo soul, je fais de la soul. C'était de la soul des années 90. Point.
Et de la soul moderne, quoi.
Exactement. Donc néo soul en soi, même quand les gens disent je fais de la néo soul, je dis mais qu'est-ce que c'est réellement? Est-ce que c'est de la soul? Est-ce que c'est du R&B? C'est pour dire je fais pas d'R&B et je fais plutôt une musique qui est beaucoup plus travaillée.
Le truc, c'est que en fait, c'est vrai que j'imagine que pour un artiste, dire je fais de la soul, tout de suite, on va te mettre en face, tu vois, de Marvin Gaye,
c'est un manque de culture. Enfin, je suis désolée. Hein. Enfin, pour moi, c'est de l'inculture. Enfin, à un moment donné, enfin, on peut pas s'arrêter dans les années 60 pour parler de musique soul. Ou même quand on dit oui, Rhythm and Blues, c'est les années 60. Non. Dans les années 70, il y a Marvin Gaye qui refait des trucs qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'il faisait dans les années 60. Il y a plein d'artistes qui ont des styles complètement différents, Minnie Riperton, machin. On peut passer 1000 ans à citer des noms. Ouais. Donc à un moment donné aussi, il faut
parce que moi j'ai l'impression qu'il n'y a que quand on parle de soul que du coup tu as tout l'héritage qui vient, qui va avec en fait. Tu vois, où forcément tu dois... Je trouve que c'est peut-être un peu dur à porter ou un peu lourd à porter en tout cas pour un artiste.
Oui, je l'entends ça.
De dire effectivement, tu vas me classer au même truc que Minnie Riperton et tous ces artistes-là, alors que quand tu fais du rock aujourd'hui, on te met pas à côté d'Elvis Presley systématiquement, tu vois. Donc, je sais pas pourquoi ça, c'est un truc qui serait intéressant de creuser. Pourquoi est-ce qu'il y a cette filiation, cet héritage direct où un artiste soul aujourd'hui doit forcément porter le flambeau des monuments des années 60-70.
Je pense que franchement, c'est quelque chose de très français.
Ouais.
Je pense que c'est quelque chose de très français. Parce que
je crois que c'est plus décomplexé.
Peut-être que c'est plus vu comme une continuité dans la culture, dans le lieu là où c'est né, entre guillemets, quoi. C'est un peu plus naturel de le voir comme une continuité, là où quand tu te l'es pris dans un territoire extérieur, il y a eu des grands trucs que tu t'es pris, mais à différentes époques. J'imagine un truc, peut-être.
Parce qu'en soi, quand on parle de la soul, même dans les années 80, je pense que la musique de Luther Vandross peut être définie comme R&B, mais aussi peut être définie comme soul. Et quand on écoute Luther Vandross, on va reparler de Luther Vandross, parce que je pense que c'est un artiste qui est essentiel. Dans les années 90, quand on dit hip-hop soul, on parle de Mary J. Blige, qui a une façon de chanter qui est très soul, parce qu'en soi, la soul, c'est la façon de chanter. C'est une expression que j'aime beaucoup, que j'emprunte à un chercheur qui s'appelle Marc Antoninil et qui part d'expression polytonale et qui dit en fait que la soul est principalement basée sur les mélismes, en fait cette façon de chanter où on va tirer en fait les notes pour pouvoir exprimer des choses qu'on ne peut pas dire par la parole. Donc cette façon de chanter qui est très spécifique à la soul music, c'est ça en fait la soul en soi. Donc du coup, si c'est une façon de chanter qui reste aussi dans le R&B, on peut considérer qu'il y a du R&B qui est très soul. Mais en France, on dira la soul, c'est les Supremes. Non, non. Il y a un lien en fait qui existe dans le R&B contemporain qui peut être très soul dans la façon de chanter. Je pense que non, c'est un débat qui est très français.
Bon, vous le voyez, elle a plein de choses à dire. Il y a encore plein de trucs dans son bouquin. allez lire Sensible, une histoire du R&B de Rhoda Chococam. Je pense que nous, on a fait un bon tour dans cette émission.
Un énorme tour, plein d'extraits.
Avec plein d'extraits. Trop d'extraits. Non, j'aime bien l'écouter.
Non, je pense que c'était bien pour contextualiser. Ouais.
Très bien. Tu sais, on a une tradition dans DLT, c'est de terminer avec des recommandations musicales.
Ok.
idéalement un truc que t'as écouté récemment, qui t'a marqué, ou un truc que t'aimes beaucoup, peut-être en dehors du chant dont on a parlé jusque-là, du R&B et tout, des trucs à côté. Et chacun une reco, on s'écoute un petit extrait rapidos. Tu veux qu'on commence comme ça, ça te laisse
commencez,
le temps de
réfléchir. Commencez, oui, parce que je pense que j'ai.
Tu peux checker sur ton Spotify ou un truc comme ça.
Téléphone est super bien, mais allez-y.
Toi, Daz, t'as une idée?
Ouais, moi je me bute en ce moment avec un groupe qui s'appelle Everyday Sense, qui est un duo de Memphis.
Ah, mais tu l'as partagé.
Je trouve chambé, ouais.
C'est quoi, regarde, il y a un petit cœur, c'est que je l'ai ajouté après que tu l'as partagé.
Je le trouve chambé ce morceau.
Et c'est vrai que c'est bien. Alors, on s'écoute un extrait.
Comme quoi, les recos Instagram.
Ah ouais, c'est sur Insta que t'as fait. J'avance un tout petit peu. She wanna be around me for free. That's her crown. Known for how she break a young nigga down. If you ain't picking up or breaking off, you can leave. Church open in the congregation, all queens. Like the pastor baffled. Now the first lady absent. J'adore, vraiment.
C'est,
on est dans le R&B est... ou pas?
Oui, je pense qu'il y a du R&B. Ouais, après, c'est très inspiré par Anderson .Paak, quand même. La façon de poser.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Il pose comme Anderson .Paak, mais Anderson .Paak. Au niveau de la prod, je trouve que les cordes, tu vois, avec un sample qui arrive au milieu et tout. Franchement, c'est trop cool.
Vraiment. C'est très stylé. Bon, en vrai, toi, t'as pas le droit de choisir un truc un peu R&B. Nous, on a le droit de mettre un peu de R&B dedans. Et toi, t'as fait que parler de R&B, alors non.
Non, mais je peux donner plein de trucs. J'écoute. En plus, je pense que j'ai pas écouté énormément de R&B. Ouais, quand même. Je suis en train de faire en fait une playlist pour l'été, donc du coup je mets plein de trucs en fait qui m'évoquent plein de choses. Et récemment j'ai réécouté un album de Shaggy Otis, et notamment un titre que j'aime beaucoup sur l'album qui s'appelle Out To My Head, mais c'est pas du tout écrit comme ça.
C'est
Shaggy, ouais. Donc avec deux G I E, Otis comme Otis Redding. Et puis A-H-T.
Ok, oui, c'est compliqué. Voilà, A-H-T, U-H-M-I, plus loin H-E-D.
Exactement, c'est Out of My Head. C'est écrit.
Okay. Bien phonétique. Voilà. Pour vous amuser. Bon. En tout cas, c'est Shaggy Otis, je ne connais pas du tout, et on va découvrir ça. Ça aussi. C'est très très bien. Il vient d'où ce monsieur?
Américain, un peu, on va dire, sosie de Prince, dans le sens où il joue tous les instruments sur son album. Album assez essentiel. Ouais, non. Je l'ai réécouté ce week-end, je me disais. Ouais.
Ok. Shaggy Otis, Out of My Head. Très bien. Et écoutez, moi je vais terminer avec un truc un peu inspiration R&B même très clairement. En fait j'aime bien toute la, je sais pas comment tu considères ça, comment on l'appelait, c'est toute cette vague très UK, two step et en même temps R&B, tu sais.
Et, on parlait de Craig David là ou...
ça, il pourrait y avoir Craig David complètement.
Oui, complètement.
Là c'est un tout petit peu plus récent, c'est du Aluna George. Et à l'époque ils avaient sorti, moi je m'étais pris vraiment une claque, c'était en 2013, Body Music. Et j'avais adoré cet album et le premier morceau est vachement bien, donc... mettons un petit extrait. Et globalement, c'est ma cam de ouf. Ces trucs, tu sais, R&B et électronique en même temps. C'est très anglais. Et les Américains, ils n'arrivent pas à faire ça. Et j'adore. C'est parti. It's not like a déjà vu. And it's not an illusion. But sometimes I feel you through all the confusion. Doesn't always make me feel sad, but it never
never really makes me feel glad. Cause all the good times we had could never be bad. My friends don't ask anymore, but they think about it, I'm sure. Now it's just down to me. Is this paper all I got? All I got to keep you with me.
C'est quoi ça?
Hein?
C'est classé quoi ça? C'est quoi?
Bah,
je pense qu'ils mettent dans du
R&B,
pop,
électropop, tout step garage, tout ces trucs comme ça, je pense.
Mais après, tu disais que les Américains savent bien le faire. Je pense qu'une artiste comme Kelela.
Oui, mais alors, mais Kelela, je trouve qu'elle est dans l'esprit, elle est plus UK qu'américaine, franchement.
Oui, oui.
Non,
oui,
mais c'est vrai que le dernier album de Kelela est très très bien, et c'est la même veine, il faut le dire, effectivement. Mm. Mais ouais, allez écouter Body Music, allez écouter Kelela. Là, c'était pas forcément le morceau le plus électronique, mais il y a des trucs vraiment assumés électroniques. Mais on retrouve d'ailleurs chez Georgia Smith aussi des trucs électroniques et tout. Mm-hmm. Ils savent bien faire, les Anglais. Voilà. Même si c'est Kelela bon. Le fait bien assez. Bon, les amis, je crois que c'est la fin de ce DLT.
Ouais.
On retrouve Daz dans Les Amours bientôt, évidemment. Ah,
ça passe encore
à
télévision.
Non, c'est fini en plus.
Bon, je suis sûr que.
Ça reviendra. Mais propose-toi comme animateur, relance Les Amours.
Oh non.
Non, c'est pas quand même.
Non, parce que les gens le savent pas, mais Tex était très très fort.
C'est probablement.
J'en parlerai après l'émission.
Il a été cancel depuis.
Bah, mais...
Ah, il a été cancel?
Ouais, il a été viré. Enfin, cancel, j'exagère, mais il a été viré.
Ouais, il fitait plus trop avec l'image de la chaîne.
Ouais, c'était pas ouf. Mais d'ailleurs, en parlant de cancel. Parce qu'on l'a quand même globalement,
on l'a globalement
saucé dans l'émission. Mais Matt Houston sur les réseaux, ces derniers temps, il dit des trucs bizarres.
Mm. Ah ouais?
Ouais. Il vieillit pas très bien, le monsieur.
Il est anti-vax.
Je te laisserai, tu verras checker, mais il dit des bêtises.
Je vais aller voir. J'avoue que je suis pas forcément ce qu'il poste.
De ce que j'ai vu,
Il vieillit comme sa musique.
C'est
du
pas
coup.
Le plus nuancé, le plus intelligent.
Sa musique vieillit bien. Je suis pas d'accord.
Ah ouais.
Ah ouais, il vieillit bien.
On va en discuter.
Son album, on va en discuter parce que je pense que Phoenix, son album Phoenix, tu l'écoutes, il vieillit super bien.
Ok, celui-là faut que.
Et même le premier.
Mais qu'on s'entende bien, je suis pas pour cancel les artistes, mais par contre pour dire quand ils sont bizarres. Et en l'occurrence, il me semble bizarre, Mathieu. Très bien, bon, un grand merci à la bouclette, évidemment, pour leur accueil, pour la technique. C'est merveilleux à chaque fois. Merci à François aussi pour le montage. Merci Daz.
Merci Sam.
Merci Thomas, bien entendu. Bah, écoute, c'est
merci
un plaisir.
À toi.
Et merci
Roda, évidemment.
Merci bon.
C'est chez Audimat Édition, Sensible, une histoire du R&B. Courez l'acheter. Ça coûte 20 balles, c'est pas cher en plus.
Ouais,
il y a 300 pages, il y a plein de trucs à lire, à découvrir. C'est très riche, c'est merveilleux. Il y a une discographie à la fin, vous allez écouter après plein de morceaux de R&B. Vous allez écouter du Leslie, du Kenza Farah, ça va être merveilleux.
Du Amine, du Hamza,
absolument.
Du Karine, du Hashim.
Voilà. On se retrouve dans 15 jours, nous. Ciao.
Bye bye.
Ciao.